Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un succès débute et un record pour Kylian Mbappé face au Sénégal. Le capitaine tricolore sonne la révolte, devient le meilleur buteur de l'équipe de France et permet aux Bleus de débuter le mondial de la meilleure des manières. Victoire 3 buts à 1. Après un premier coup de chaud en mai, le thermomètre va encore grimper. Vague de chaleur qui débarque sur le pays. Mauvaise nouvelle, ça va durer. Et un orthophoniste mis en examen et écroué à Béthune pour agression sexuelle sur 5 de ses patientes toutes mineures.
Kylian Mbappé dans l'histoire.
À la chasse au record, il en a décroché un hier soir, désormais meilleur buteur de l'équipe de France. Avec 58 réalisations grâce à un doublé face au Sénégal, victoire 3 buts à 1, le capitaine des Bleus, Florent Germain, est désormais seul.
Oui, à choisir, Kylian Mbappé rêvait de battre le record d'Olivier Giroud en pleine Coupe du Monde. C'était le moment de briller hier à New York avec un doublé retentissant pour le numéro 10 des Bleus.
Je suis très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. J'ai toujours placé ça au-dessus de tout. Maintenant, je sais pourquoi je suis là pour aider l'équipe. On va continuer à essayer d'écrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France.
Les 58 buts de Kylian Mbappé sous le maillot tricolore ont tous été marqués avec Didier Deschamps sur le banc. Le sélectionneur ravi pour son capitaine.
C'est un joueur en homme, même s'il peut ne pas faire un grand match sur une seule action. Il a une capacité à pouvoir faire gagner son équipe. Je suis très content pour lui.
Kylian Mbappé a été acclamé en quittant la pelouse du MetLife Stadium et il a fait vibrer les supporters français.
Kylian, quand c'est la Coupe du Monde, il met sa cape.
Quand il accélère, ça va vite quand même. Ça va plus vite que les autres.
S'il met deux buts par match, nous, on veut bien. Ah ouais,
aussi, hein. Autre record en vue pour Mbappé, celui du nombre de réalisations en Coupe du Monde avec 14 buts, le capitaine des Bleus n'est plus qu'à 2 unités de l'Allemand Miroslav Klose et désormais de l'éternel Lionel Messi.
Et justement, on va l'entendre Lionel Messi dans quelques instants à propos de ce record. Mais d'abord, on va prendre la direction de New York. Jean-Louis Tour, vous êtes sur place ce matin en direct pour RMC. Vous étiez au commentaire de ce premier succès des Bleus dans ce mondial. Victoire 3 buts à 1 face au Sénégal qui a tout de même mis du temps à se dessiner, Jean-Louis.
Oui, c'est le genre de match qui révèle un peu vos personnalités. Si vous êtes optimiste, vous allez retenir la dernière demi-heure et les grandes performances du duo Michael Olise-Kylian Mbappé. Si vous êtes pessimiste, vous aurez surtout relevé les difficultés françaises pendant la première heure. Des Bleus dépassés par les Sénégalais qui se sont procurés deux grosses occasions sans marquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer ce changement de visage? Un ajustement tactique, tout d'abord. Olise qui a échangé de poste avec Ousmane Dembélé, ce qui l'a rapproché du but et donc de Kylian Mbappé. Dembélé, le ballon d'or qui a eu du mal à exister, il a même été le premier attaquant à être remplacé. Et puis Deschamps a su trouver les mots dans le vestiaire pour retirer de la pression à certains qui connaissaient leur premier match de Coupe du Monde. On s'est dit ce qui n'allait pas, même ajouter William Saliba après le match. Malgré ses difficultés, Deschamps a en tout cas conservé ses 4 attaquants. Ce sera probablement le cas encore contre l'Irak à Philadelphie le 22 juin, en espérant, avec un peu d'optimisme, un seul et beau visage des Bleus cette fois.
Jean-Louis Tour, en direct de New York ce matin pour RMC, on vous retrouvera donc. Vous avez noté le rendez-vous pour le prochain match de l'équipe de France, 23h sur RMC lundi face à l'Irak, battu cette nuit 4 buts à 1 par la Norvège qui prend la tête du groupe I à la différence de but. Ça se joue en ce moment du côté de Santa Clara aux États-Unis. L'Autriche mène 1-0 face à la Jordanie. C'est la mi-temps dans ce match du groupe J, dominé ce matin par l'Argentine, vainqueur de l'Algérie grâce à la Pulga. Lionel Messi inscrit les 3 buts de la rencontre, 3-0, et vient égaler le record de l'Allemand Miroslav Klose, 16 buts inscrits en Coupe du Monde en 6 éditions. Un record, mais pas d'effusion de joie pour l'Argentin modeste en conférence de presse.
Être au même niveau que Miroslav Klose, au final, ça ne signifie pas grand-chose. Mbappé aussi est dans le classement. Ce ne sont que des statistiques, rien de plus. C'est une fierté de pouvoir rivaliser avec ces joueurs. En ce moment, on regarde la série documentaire sur Rafael Nadal et je m'identifie beaucoup à lui. Je crois que nous sommes les mêmes sur ce point-là. Je veux toujours donner plus et me sentir bien.
Messi ou Mbappé, le record sera très probablement battu durant cette Coupe du Monde et vous le vivrez sur RMC Radio Officielle de la compétition. Il est 7h05 et c'est le début d'une nouvelle vague de chaleur, la 52e depuis le début des relevés en 1947. Elles sont de plus en plus précoces. Deuxième épisode de l'année alors que nous ne sommes pas encore le 21 juin, c'est inédit. 30 à 35 degrés attendus aujourd'hui sur une grande partie du territoire et ce n'est qu'un début. On prête à atteindre les 40 degrés par endroit dimanche et le gouvernement se donne le route de rappeler les conseils de vigilance.
La ministre de la Santé donne des conseils que nous avons tous en tête, mais qu'on n'applique pas forcément. Boire de l'eau encore plus en cette période, continuer à s'alimenter, mais aussi et surtout en écho à ces morts, ces noyades notamment, qui auraient sans doute pu être évitées il y a 3 semaines, diminuer l'activité physique aux heures les plus chaudes et faire attention pour les baignades. Pour ceux qui cherchent la fraîcheur, le ministère de l'Intérieur les invite d'ailleurs à se mettre à l'eau uniquement dans des zones sécurisées. Le gouvernement appelle aussi à faire attention aux plus fragiles. Les aînés, les SDF, les personnes en situation de handicap ou isolées. Si vous êtes seul, sachez que vous pouvez être inscrit sur les registres des personnes vulnérables de votre ville. Ça permet de prendre de vos nouvelles au besoin.
Et si vous souhaitez faire un plongeon dans les eaux du canal Saint-Martin à Paris, c'est possible. Annonce du maire de la capitale qui regrette l'énergie dépensée par les forces de l'ordre pour empêcher les Parisiens de s'y baigner en mai dernier sous 40 degrés. Des mots et des gestes qui ne sont pas constitutifs du harcèlement sexuel. Justification du tribunal correctionnel de Paris qui a relaxé un animateur du périscolaire hier, jugé pour des propos déplacés et des câlins appuyés imposés à 9 jeunes fillettes de CM2. Suspendu jusqu'ici, l'homme de 47 ans peut désormais reprendre ses activités auprès de jeunes mineurs. Un orthophoniste de 55 ans a lui été mis en examen, placé en détention provisoire à Béthune dans le Pas-de-Calais pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs, au moins 5 jeunes patients, Pierre Bazin, qui dénonce des attouchements du praticien.
Oui, tout part d'un signalement effectué par un petit garçon de 5 ans. Il raconte avec ses mots d'enfant que son orthophoniste lui a fait des guilis sur les parties intimes pendant la consultation. Un récit pris très au sérieux puisqu'une plainte est déposée le 10 juin dernier. Très rapidement, le procureur de la République de Béthune ordonne l'interpellation du professionnel de santé âgé d'une 50aine d'années. Il est placé en garde à vue dès le lendemain, notamment pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Pendant l'audition du suspect, 4 autres jeunes victimes sont identifiées par les enquêteurs. Ce sont des enfants âgés de moins de 10 ans qui décrivent à tour de rôle des violences à caractère sexuel durant des consultations. Jusque-là inconnu des services de la justice, l'orthophoniste a été placé en détention provisoire.
Une nouvelle plainte bientôt déposée contre Jérôme Barella, le principal suspect de l'affaire Liana, visé selon nos confrères de BFM TV par les accusations d'une amie proche de sa fille, une jeune adolescente aujourd'hui âgée de 12 ans, placée auprès de l'ASE qui l'accuse d'agression sexuelle répétée. Son avocate va porter plainte après un signalement oublié par la justice en mars dernier. Des coups de semonce tirés dans la Manche par un navire de guerre russe contre un yacht britannique afin d'éviter une collision, nous dit la Russie. Incident isolé, précise de son côté le ministère de la Défense britannique qui a ouvert une enquête. Et puis c'est le dernier jour du G7 à Évian après le Moyen-Orient et l'Ukraine hier. Il sera question des enjeux de sécurisation autour de l'intelligence artificielle ce mercredi. Donald Trump prolongera lui sa visite par un dîner ce soir à Versailles. Il sera reçu par Emmanuel Macron afin de célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine.
C'était le journal de Thibaut Texer et à 7h08, évidemment, vous êtes nombreux à nous appeler pour vivre ensemble et vibrer pour l'équipe des Bleus 3-1 hier face au Sénégal. Yannick est avec nous. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Yannick, vous êtes sur le chantier là, maçon à Perpignan.
Oui.
Ah, oui, j'entends, bah, c'est bien parce qu'en plus avec la chaleur, j'imagine que vous avez commencé tôt.
À 6h.
À 6h. Mais ça y est, il fait chaud ou ça va?
Ah oui, oui, commence déjà à faire très chaud, oui.
Il commence à faire très chaud. Yannick, en plus, vous êtes couché tard, parce que vous avez fêté, évidemment, et vibré avec les Bleus. Comment vous l'avez vécu, ce match?
Ah, moi, je le savais. D'ailleurs, si vous regardez sur votre groupe WhatsApp, j'avais pronostiqué 3-1.
Parfait.
Voilà,
je le savais. J'aime beaucoup ce... De toute façon, je le savais. Donc, vous vous y attendiez. Vous saviez qu'il y en aurait un troisième, là, dans les dernières minutes. Vous l'aviez anticipé, ça?
Allô?
Oui, vous m'entendez?
Pardon.
Non, mais je comprends, ça bosse sur le chantier, oui. Ça bosse. Bon, Yannick, alors, dites-moi comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez vécu hier, si vous avez enragé au début.
Il est rassuré, surtout.
Ah oui, bien sûr, mais après, c'était sûr, le Sénégal est une grosse équipe quand même, le Sénégal est une très, très grosse équipe, donc c'était sûr.
Non, mais vous êtes confiant, Yannick.
Oui,
parce que la suite,
sûr, hein.
L'Irak, la Norvège, on y va tout droit.
Ah, je vous entends, on vous entend plus, Yannick, sur le chantier. Yannick, ouais, au moins, on l'aura vécu ensemble, ce chantier.
Que Yannick,
voilà. Yannick, rappelez-nous, en tout cas, Yannick qui est donc sur le chantier maçon à Perpignan. Comme lui, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 3216. Il est 7h10 sur RMC. Et on va parler maintenant de l'opération transparence de la justice. C'est ce qu'avait demandé le ministre de la Justice après l'affaire Liana. Et bien, des réunions publiques sont organisées un peu partout en France pour que les Français puissent échanger directement avec les magistrats, avec les juges. Bonjour Marielle Garrigos. Vous êtes la procureure de la République de Bayonne. Vous êtes procureure de la République à Bayonne et vous avez organisé cette rencontre directement avec des Français hier. Les Français ont besoin de voir un visage humain derrière la justice. Voilà votre parti pris. Vous allez nous dire les échanges que vous avez pu avoir avec eux, les réponses que vous avez pu leur apporter. Je vous écoute dans un instant. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 sur RMC et RMC Story. Et ça fait deux semaines que jour après jour, on découvre ce que le ministre de la Justice appelle des dysfonctionnement et évidemment un désespoir, une colère, une tristesse, une inquiétude qui monte partout en France. Vous avez décidé d'y répondre directement. Marielle Garrigos, bonjour. Vous avez organisé avec la présidence du tribunal judiciaire de Bayonne hier après-midi une rencontre public, direct, avec les Français. L'objectif, répondre aux interrogations, expliquer au public la justice après l'affaire Liana. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est déroulé cet exercice qui est tout à fait inhabituel ?
Oui, alors, comme vous l'avez dit, c'est la grande émotion suscitée par cette dramatique affaire et les critiques, parfois virulentes, qui ont commencé à fuser à l'encontre de l'institution judiciaire et de la magistrature. Que pour partie, évidemment, nous entendons et nous comprenons, que la présidente du tribunal et moi-même nous sommes dit que, précisément, il fallait y répondre, qu'on ne pouvait pas rester enfermés dans nos tribunaux et qu'il fallait les ouvrir à la société civile pour, effectivement, dialoguer avec eux.
Vous vous êtes retrouvés face à une soixantaine de personnes, c'est ça, qui sont venues échanger avec vous ?
Exactement. Une soixantaine de personnes. La réunion s'est tenue hier dans l'enceinte du tribunal, en salle d'audience, entre midi et 13h30. Mmh. Et c'était des personnes qui,
ils vous demandaient
pour la
quoi,
plupart, avaient participé aux manifestations. Alors, ce qu'ils voulaient, c'était... Alors d'abord, c'était à notre initiative, cette réunion publique. Donc au départ, c'est nous qui souhaitions leur adresser des messages. C'est-à-dire des messages à la fois de compassion, de compréhension, mais aussi, surtout, nous présenter à eux, leur expliquer nos méthodes de travail, nos objectifs, et ce que, là, on mettait en place pour faire en sorte que ce type de drame n'arrive plus, et en tout cas de réduire au maximum le risque que ça se produise.
Quand vous dites, justement, apporter des réponses, mettre en place de nouveaux fonctionnements, est-ce que ça veut dire que depuis deux semaines, il y a des choses que vous avez changées dans votre organisation, dans vos priorités ? Est-ce que, comme l'avait demandé Gérald Darmanin, vous avez remis sur le haut du panier les plaintes spécifiquement qui touchent des enfants ? Comment vous vous êtes réorganisé, j'allais dire ?
Alors absolument, depuis 15 jours, on est effectivement mobilisé de façon exceptionnelle, quelque chose qui peut ressembler vraiment à de la cellule de crise. Quand je dis « on », je pense aux forces de sécurité intérieure, les services d'enquête, les magistrats et les greffiers. Concrètement, on a tous procédé à un recensement des procédures en cours concernant des viols et agressions sur mineurs. Et depuis hier matin... On balaye, on reprend chacune de ces procédures une par une pour les examiner et pour les orienter mieux et pour prendre des décisions chaque fois qu'elles sont déjà mûres pour être prises.
Ça veut dire
ça, c'est
aussi
le plan d'action.
Ça, c'est le plan d'action. Ça veut dire aussi, j'imagine, qu'il y a d'autres affaires en cours que vous allez devoir au minimum faire patienter. Vous ne pourrez pas tout traiter.
Alors effectivement, là, pendant trois semaines, le focus est mis sur ces affaires spécifiques, comme l'a souhaité le ministre. Mais par ailleurs, la vie judiciaire ne s'arrête pas. On continue nos audiences, on continue d'assurer les permanences du parquet, qui, je rappelle, se tiennent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La criminalité ne s'arrête pas. Et on continue évidemment de traiter les autres affaires prioritaire, c'est-à-dire toutes les violences contre les personnes et notamment les violences intrafamiliales et conjugales et naturellement la criminalité organisée et la lutte contre les trafics de produits stupéfiants. Mais les autres contentieux qui sont considérés comme étant moins empreints de dangerosité et moins urgents sont laissés de côté, sont mis en suspens jusqu'au 14 juillet.
Mis en suspens, ça veut dire quand même, Marielle Garrigos, que les vols, j'imagine, ce qui n'est pas d'une sorte d'ultra-violence du quotidien, ça va être forcément traité plus tard et ça devra patienter, quoi.
Alors, ce qui devra patienter, ce sont finalement les affaires moins urgentes. Quand je dis moins urgentes, c'est que j'évoquais tout à l'heure la permanence du parquet qui ne s'arrête pas, la permanence des flagrants délits. Donc en réalité, même les infractions de plus basse intensité, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple des vols, des escroqueries, à partir du moment où c'est flagrant, de toute façon, et qu'il y a des gardes à vue qui sont prises, parce que ça ne s'arrête pas, hein, enfin non plus dans les autres domaines, eh bien il y a de toute façon des magistrats du parquet qui tiennent cette permanence et qui traitent ces infractions flagrantes. Donc c'est pas qu'on arrête absolument tout à côté, c'est impossible.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que ce qui s'est joué hier, vous le renouvellerez ? Est-ce que vous vous dites, en sortant de ce moment d'échange avec les Français, avec le peuple, je rappelle quand même que vous rendez la justice au nom du peuple français, est-ce que ces rencontres, vous vous êtes dit, il faudra en organiser davantage ?
Alors, moi je sais, à titre personnel, c'est vrai que j'y suis quand même très favorable. Je trouve que c'est un exercice très intéressant. On a des échanges nourris. Et je dirais quand même que le travail du procureur, des procureurs, a beaucoup évolué ces dernières années. Nous sommes quand même très souvent en prise avec le public, avec la société civile. On participe quand même beaucoup à de réunions publiques à l'extérieur. Donc c'est un exercice auquel on se livre. Mais c'est vrai que ouvrir les portes du palais, en tout cas de cette façon-là, c'était assez inédit, même si on a quand même d'autres moments dans l'année où le public peut venir. On a nos conseils de juridiction qui sont des moments où on présente en fait le bilan et l'actualité. Donc, de la juridiction.
C'est aussi aux Français de se saisir de ces moments-là, mais vous y avez répondu. Merci d'avoir partagé avec nous cette initiative, Marielle Garrigos. Je rappelle donc que vous êtes procureur de la République à Bayonne. Il est 7h20. Notez que Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, sera mon invitée à 8h30. Je lui poserai aussi évidemment toutes ces questions sur la justice. C'est l'heure de retrouver Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous. Nabo, on va te finir. Voilà, parmi les insultes qui ont été lancées visiblement par le ministre des Transports à Éric Ciotti, maire de Nice. L'insulte en politique, c'est pas nouveau.
Eh oui, quand la tension monte, les mots dépassent parfois l'inacceptable. Et figurez-vous que deux députés en sont même venus à s'affronter en duel à l'épée.
Vous allez nous le raconter. Il est 7h21. Arnaud Demanche aussi arrive. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
On va remonter le temps comme chaque jour. Il est 7h22 et c'est l'heure d'Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Le maire de Nice, Éric Ciotti, réclame le renvoi du ministre des Transports, Philippe Tabarot. Il a même écrit directement au Premier ministre pour le demander.
Eh oui, d'après Éric Ciotti, Philippe Tabarot l'aurait traité de nabo. Le ministre aurait aussi menacé Ciotti de le faire, je cite, disparaître en lui envoyant des Géorgiens. Hein, ambiance. Dans son courrier au Premier ministre, le maire de Nice dénonce donc une atteinte à la dignité gouvernementale et à la sérénité entre les élus de la nation et les membres de l'exécutif. Selon l'entourage de Philippe Tabarot, donc de l'autre côté, cet échange s'inscrit dans une série d'invectives proférées par Éric Ciotti ces dernières semaines. Tout ça, Apolline, sur fond de rivalité avant les élections sénatoriales de septembre.
On a quand même l'impression que les politiques ont l'insulte de plus en plus facile.
C'est assez vrai, mais entre nous, c'était quand même pas beaucoup mieux avant, il faut bien le dire. Par exemple, sous la Troisième République, quand vous étiez parlementaire, faire des bons mots sur vos adversaires, c'était la base, puisque c'est comme ça que la presse vous remarquait. Et le spécialiste toute catégorie confondue de la médisance, c'était Georges Clemenceau, par exemple, à propos de Félix Faure, un président de la République qui venait de mourir et qu'il méprisait. Clemenceau avait déclaré, en entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui.
Oh bah c'était pas très sympathique ça. L'ancien Premier ministre anglais, Winston Churchill, avait lui aussi visiblement beaucoup de talent pour ridiculiser ses adversaires.
C'était même sa seconde nature, hein, on peut le dire. Après la guerre en 1946, Churchill perd les élections contre un homme de gauche qui s'appelait Clement Attlee, un type qui, entre nous, n'avait pas beaucoup de charisme. Eh bien, Churchill ne va pas le rater puisqu'il va dire de lui, c'est un homme très modeste qui a d'ailleurs toutes les raisons de l'être.
Sous la Ve République, les insultes ont parfois dégénéré en duel.
Mais oui, scène de folie à l'Assemblée nationale. Et c'est assez récent, Apolline, puisque c'est en 1967, le député-maire de Marseille, Gaston Defer, se dispute avec un député gaulliste qui s'appelait René Ribière. Il lui balance un « Taisez-vous, abruti » dans l'hémicycle.
Ah, « Taisez-vous, abruti ».
Taisez-vous, carrément. Donc le député réclame des excuses. Defer refuse de s'excuser. Et là, René Ribière va finalement demander réparation avec un duel à l'épée. Duel qui aura lieu, même si c'était interdit par la loi. Et c'est Defer qui blesse son adversaire en premier. L'arbitre arrête le combat. C'était d'ailleurs le dernier duel de l'histoire de France.
Merci beaucoup Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Exactement.
Et
bonjour.
Bonjour. Face-à-face. Mon invité ce matin, c'est Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.
Oui, Yael Braun-Pivet qui réagira surtout à l'événement de ce soir à Versailles. Emmanuel Macron reçoit Donald Trump pour les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Voilà, c'est Macron qui a la garde de Papy Zinzin jusqu'à demain. Les autres membres du G7, ils en pouvaient plus. J'espère qu'il va pas faire de gaffe, Trump. Oh, Brigitte, vous qui avez connu Louis XIV, il était sympa. Brigitte, non, allez, 100% de droit de douane. Les États-Unis ont 250 ans. Alain Duhamel était là le jour de l'indépendance. Oui, vous le saviez, Apolline? Il m'a raconté, il m'a dit, oh, jeune chroniqueur! Oui, j'étais envoyé spécial à Philadelphie à l'époque pour un journal révolutionnaire, RMC. Régime monarchique corrompu. J'étais avec Lafayette et George Washington. Lafayette qui avait déclaré à l'époque:
chers adhérents, chers clients, pendant les 3 J Lafayette, les constitutions sont à moins 50%. Oui, moins 50%. Alors n'hésitez pas et prenez votre indépendance avec votre carte Lafayette. Et Louis XVI avait déclaré aussi à l'époque, je parle sous le contrôle d'Arthur Chevalier, il avait déclaré: allez-y, disons les Américains, si on peut faire chier les Anglais, on prend. C'est mon imitation,
oui,
de Louis XVI.
Oui, il avait sans doute
J'ai
cet accent.
J'ai pris un accent canadien parce qu'il paraît que le français du Québec est une conservation du français de l'époque. Ça me bute, ça. À chaque fois, Louis XVI disait à Marie-Antoinette: tabernac, ma blonde, t'as-tu donc pris tes places pour Céline?
Oh, y'a foule! Effectivement, j'adore la musique. Non, si, je l'ouvre pas l'autre.
Parce qu'elle était autrichienne. Oui, ouais. Arthur Chevalier confirme. Il me disait, ce sont des vraies citations, tout ça. Hein. Et c'est très bien imité. Alors, tout à fait autre chose. Un des combats politiques de Yael Braun-Pivet, c'est qu'il y a trop d'hommes candidats à la présidentielle. Bon, déjà, il y a trop de candidats, tout court. 232 candidats, c'est beaucoup trop. Je veux bien qu'on rajoute des femmes, mais en plus, on en a des femmes. Il y a Delphine Bateau et il y a Lydie Massard de l'Union démocratique bretonne.
Vous l'avez bien, celle-là, j'ai remarqué. Oui, j'ai remarqué que vous l'avez.
Alors,
bien.
Si ça peut la consoler, Yael, moi, j'ai voté pour des hommes, mais pas parce que c'était des hommes. Je voterai pas pour un candidat masculiniste.
Français, si vous m'élisez, président, les femmes resteront en talons hauts à la cuisine pour cuisiner des côtes de bœuf. Les motos, les protéines en poudre et les barres de pole dance seront déductibles des impôts. Enfin, nous créerons un ministère de la virilité chargé de rééduquer les hommes qui se font des chignons et de la cuisine moléculaire.
Attention Mathieu, attention. On rigole, mais ce modèle-là, les Américains l'ont élu quand même. Hein. Et on le reçoit à Versailles en plus. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure Arnaud, Yael Braun-Pivet, donc à 8h30. Il est 7h27, restez bien avec nous. Dans un instant, la météo et le journal sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. De très jeunes victimes entendues, crues, mais pas de condamnation. Un animateur du périscolaire parisien relaxé des accusations d'agression sexuelle. Les juges estiment que les témoignages n'étaient pas suffisants. La barre des 40 degrés en approche. Une semaine de canicule commence et la SNCF est contrainte d'annuler des trains mal équipés. Et record sur record au Mondial, Kylian Mbappé, désormais meilleur buteur en bleu après la victoire des Bleus contre le Sénégal. Lionel Messi, co-meilleur buteur en Coupe du Monde et qui a climatisé l'Algérie avec l'Argentine.
Un animateur périscolaire parisien échappe à une condamnation.
Premier procès de cette affaire tentaculaire d'abus sexuels sur des élèves. L'homme de 47 ans a été relaxé hier. Colère des parents des 9 fillettes de CM2 qu'il accuse d'agression et de harcèlement sexuel. Julie Brault, les juges ont bien entendu le témoignage des enfants, mais pour eux, il ne vaut pas sanction.
Oui, selon le tribunal, l'homme de 47 ans a bien eu des propos et des gestes inadaptés alors que 9 fillettes l'accusent d'accolade avec insistance sur la poitrine ou encore de leur avoir livré des récits de viol. Mais après enquête, ces éléments n'apparaissent pas comme objectifs et tangibles selon les juges. Ils estiment que l'animateur aurait dû faire l'objet d'un recadrage, de rappel à l'ordre de la part de sa hiérarchie. Mais son comportement n'est pas pénalement répréhensible, a conclu le président du tribunal. À la sortie de l'audience, les parents d'élèves ont déploré un signal terrible envoyé aux enfants qui ont eu le courage de parler.
Cet animateur a eu des comportements, des propos qui ont abîmé des enfants et qui sont des personnes vulnérables.
Donc nous, on va dire à nos petites filles qu'elles ont bien fait de parler. On leur dira pas que ça a juste permis à cette personne de se faire licencier sans qu'il y ait absolument aucune trace dans son passé de ce qu'il a pu faire aujourd'hui, qui est qualifié comme anormal par tout le monde.
L'animateur, jusqu'ici suspendu par la mairie de Paris, peut, suite à sa relaxe, travailler de nouveau au contact des mineurs.
Un procès qui fait écho à l'affaire Liana, dans laquelle une nouvelle plainte va être déposée par une des meilleures amies de la fille de Jérôme Barella. Elle l'accuse d'agression sexuelle lors d'une soirée pyjama. Un signalement avait déjà été envoyé à la justice en mars, mais n'avait pas eu de suite. Vous avez sûrement déjà eu chaud cette nuit, et c'est une semaine de canicule qui démarre. Près de 50 départements en vigilance jaune aujourd'hui, des températures qui vont frôler les 40 degrés. Et déjà de premières conséquences, la SNCF annule 27 trains demain et vendredi. Des rames trop vieilles et trop mal équipées, selon la spécialiste des transports Patricia Pernès.
Quand il fait chaud, les trains qui sont supprimés tout de suite, c'est ce qu'on appelle les trains corail. C'est des trains un peu anciens qui font Paris-Clermont ou Paris-Toulouse et qui ont des problèmes de climatisation en gros. Quand il fait très chaud, la climatisation n'est pas fiable et donc SNCF, par prudence, préfère annuler. Mais c'est surtout des trains qui sont très anciens. Des trains qui ont 40 ou 50 ans d'âge et qui auraient dû être renouvelés depuis maintenant 2-3 ans, mais le constructeur n'a pas réussi à livrer les trains sont en retard et du coup on se retrouve avec un matériel qui est trop ancien et évidemment les nouvelles rames auront la clim.
Un vote très attendu aujourd'hui sur une mesure polémique au Parlement européen. Vote pour entériner la création de centres de rétention hors d'Europe pour y envoyer des étrangers en situation irrégulière. Ce ne serait pas une obligation, mais une possibilité pour les États membres. Alors la droite française met la pression au gouvernement pour qu'elle soit effectivement appliquée, Romain Cluzel.
Ces centres de rétention dans d'autres pays que l'Union européenne sont indispensables pour l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. L'élu LR a porté ce texte et il estime que de tels centres sont une réponse face aux pays qui refusent d'accueillir leurs ressortissants.
Il s'agit de gens déboutés du droit d'asile ou bien auquel un titre de séjour a été refusé. Ces gens-là, pour le coup, ils ne sont pas éligibles à un séjour légal en Europe, ils doivent donc repartir. Ceux qui critiquent ce règlement, en réalité, ne veulent pas lutter contre l'immigration illégale.
Ce règlement en retour sera vraisemblablement adopté avec les voix de la droite et de l'extrême droite, mais ce dispositif de centre divise certains groupes comme Renaissance. La socialiste Chloé Ridel dénonce, elle, une mesure qui va à l'encontre des principes de l'UE.
La droite et l'extrême droite, ils importent en Europe la politique migratoire de Donald Trump. Ce sont des politiques non seulement cruelles, mais en plus inefficaces. C'est simplement une remise en cause de ce qui est au cœur de l'identité européenne, c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux de la personne et de la dignité humaine.
L'eurodéputé PS craint que le gouvernement français mette rapidement en place ces mesures. Sur notre antenne le mois dernier, le ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, a soutenu ce règlement retour.
Romain Cluzel, le ministre du Commerce, se réjouit du départ de Chine du BHV Paris. La société à l'origine du projet va vendre et les repreneurs veulent évincer le géant chinois de ses murs. Attention, cela ne concerne pas les 7 autres BHV en région où le partenariat se poursuit.
Allez, direction les États-Unis à 7h35.
Avec cette pluie de record au mondial de foot, de buts de Mbappé dans la victoire 3-1 des Bleus contre le Sénégal pour devenir donc Kylian Mbappé le meilleur buteur en équipe de France. Un doublé en deuxième période qui a soulagé des Français inefficaces pendant 60 minutes. Écoutez le diagnostic de l'attaquant Désiré Doué.
Franchement, en première mi-temps, c'était un peu plus brouillon. Il y a eu beaucoup de pertes de balles, je trouve. Un manque de justesse technique par moment. C'est aussi ça, le football, de rentrer dans une grande compétition. On a su élever le curseur en deuxième mi-temps, être beaucoup plus posé avec le ballon et concrétiser les actions qu'on a eues devant le but.
Et la France, ce matin, deuxième de son groupe, parce que la Norvège a marqué plus de buts cette nuit. 4-1 contre l'Irak. L'Irak qui sera le prochain adversaire des Bleus. Un homme, une légende, a encore plus brillé que notre Mbappé national. C'est Lionel Messi et son triplé avec l'Argentine pour battre l'Algérie 3-0. Il égale le record de buts inscrits en Coupe du Monde. Et il a surtout refroidi les centaines de supporters algériens réunis dans la fan zone de Saint-Denis, près de Paris, où vous avez passé la nuit, Lucas Laubert.
Pendant tout le match, les Algériens ont souffert.
3-0 pour l'Argentine.
Mais ce troisième but fut celui de trop. Des dizaines de supporters quittent la fan zone avant même la fin du match, tous abasourdis par le niveau d'un homme.
Léo Messi, il est injouable. Je me suis dit qu'il allait pas en mettre 3, que ça allait pas se passer comme ça quand même. Mais là, faut avouer, ce qu'il a fait ce soir, c'est incroyable, c'est historique.
On peut rien faire face à un mec comme ça, franchement, il a 40 ans bientôt, mais c'est toujours une pile. C'est un truc de ouf.
Avec la défaite et la très petite nuit, le réveil doit être dur ce matin. Après le match, certains, comme Hamza, avaient même déjà abandonné.
Ah, moi, je te dis la vérité, je sors pas de mon lit. Là, on vient de se prendre 3-0.
Et du coup, tu vas pas bosser là tout à l'heure.
Ah non, c'est mort.
Il faut maintenant penser au reste de la compétition, mais malgré ce match à oublier.
Je suis confiant pour la suite.
Car pour Mehdi, c'est le moment ou jamais pour se remettre la tête à l'endroit pour les Fennecs.
Je pense que la Jordanie, c'est un niveau en dessous. L'Autriche, un niveau équitable. C'est là, il faut tout donner. Parce que là, on a 0 points.
Objectif, selon lui, viser la deuxième place, synonyme de qualification directe pour les 16e de finale.
Et ça joue encore ce matin. La Jordanie et l'Autriche font pour l'instant match nul, un partout. Match à suivre en intégralité sur la radio digitale 100% RMC 100% Coupe du Monde.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome d'Agen, le passage.
Un départ 18h30, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 14, Kerlas Dave. Son outsider, c'est le numéro 16, Kaiser Chance, le 14 et le 16.
C'était
le
journal de Victor Pochet, les 7h38, et écoutez bien. Oui, oui, ça c'est les zéros qui défilent, et puis effectivement le chiffre de la prime qui monte, parce que c'est le moment de jouer pour gagner votre prime de match sur RMC. Vous savez qu'on rajoute 500 euros à chaque but marqué pendant cette Coupe du Monde, et bien justement, un but vient d'être marqué, on est donc à 60 000 euros à gagner dans cette cagnotte. Retenez bien ce chiffre, parce qu'il y aura un tirage au sort aujourd'hui avant midi, et si vous êtes en mesure de dire combien il y a dans la cagnotte, 60 000 au moment où on se parle, et bien alors c'est vous qui la remporterez. Pour jouer, vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16, but au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire, et c'est parti tout de suite à 7h38.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42. Tiens, n'oubliez pas, on joue, il vous reste 5 minutes et pas une de plus pour vous inscrire, pour envoyer but au 7-32-16 et remporter avant midi aujourd'hui, jour de tirage au sort, les 60 000 euros qu'il y a dans la cagnotte, dans la prime de match. 7h43, il vous reste donc 4 minutes maintenant pour vous inscrire. Vous envoyez but au 7-32-16 sur RMC. Il est 7h43 et évidemment la France a réussi son entrée dans la Coupe du Monde.
C'est fini, c'est victoire fini. De l'équipe de France.
L'ensemble parfaite pour l'équipe de France au niveau du résultat. Victoire 3-1.
Bonjour Eric, Eric Dimeco, notre fil rouge tout au long de la compétition, consultant RMC, ancien international. Victoire 3-1 hier soir des Bleus avec ce doublé de Kylian Mbappé. Ça y est, c'est parti et c'est bien parti.
Oui, moi je suis plutôt... Alors il y aura des débats pendant 5 semaines. Donc est-ce que Didier doit garder 4 attaquants? Est-ce qu'il faut passer à 3? Est-ce qu'il faut mieux de plus? On a vu que c'était compliqué de rentrer dans ce genre de compétition, même pour les grosses nations. Hein, on va en parler de l'Espagne, mais il y en aura d'autres. Première mi-temps poussive, mais moi j'ai plutôt envie, j'écoutais Jean-Louis tout à l'heure, qui disait il y a les optimistes et les pessimistes. Je ferai partie des optimistes ce matin, parce que... On se rend compte que cette équipe de France, elle a un fort potentiel offensif. On se rend compte aussi que Didier, quand il faut changer quelque chose pour transformer le match, il est capable de le faire. Hier soir, c'était le replacement dans l'axe d'Olysé. Voilà, on a un entraîneur expérimenté. On a une équipe avec beaucoup de points forts. Voilà, le jeu est pas super huilé encore. Est-ce qu'il le sera?
C'était un petit peu diesel.
Voilà.
On peut le dire. Ça.
Non, mais il faut le dire, parce que sinon, ce n'est pas crédible.
Mais ensuite, on a eu l'impression qu'une fois qu'il y avait une sorte de déclic qui avait été enclenché, la détermination, le côté chirurgical, la deuxième mi-temps était magnifique.
Oui, c'est pour ça que le déclic, pour moi, vient du replacement d'Olysé derrière Mbappé, qui le rapproche d'Mbappé. Et on a vu que tous les bons ballons, toutes les actions tranchantes viennent de lui. Et puis surtout qu'Mbappé, du coup, se retrouve avec des ballons de but et qu'il est redoutable dans ces moments-là. Donc voilà, moi j'ai envie de retenir ça. Il y aura sûrement un débat sur est-ce qu'on garde ces joueurs-là, ou est-ce que le petit Barcola qui fait une bonne rentrée mérite à un moment donné d'être titulaire. Moi, je veux pas encore faire le débat sur les trois milieux de terrain.
Mais le remplacement de Olysé, c'est intéressant, parce que ça vient aussi souligner le fait que ils ont beau s'entendre dans la vraie vie, Mbappé et Dembélé, ils se trouvent pas sur le terrain.
Alors il y a un vrai problème Dembélé en équipe de France, c'est-à-dire que ses performances sont moyennes, il y a pas de match significatif, même de le remettre dans l'axe derrière Mbappé, il a du mal. Il aura jamais l'équipe qui est faite autour de lui comme au Paris Saint-Germain, parce que il y a Mbappé dans cette équipe là et que l'équipe est faite autour d'Mbappé.
Mais c'est lui le Ballon d'Or.
Et l'autre, par contre, c'est le statut, c'est champion du monde, meilleur buteur de l'équipe de France, et peut-être bientôt meilleur buteur d'une compétition, voire même de plusieurs finales, puisque il a marqué déjà beaucoup de buts dans des finales. Donc, il faut qu'il aille le chercher, ce statut-là, Dembélé. Et là, le match hier soir encore pose beaucoup de questions. Mais moi, je veux pas faire le débat de quatre attaquants, est-ce qu'on passe à trois? Parce
t'en as bien compris. Je vais pas te la poser la question. J'ai bien vu là. Non, celui-là, je veux pas le faire.
Je l'ai entendu hier soir sur l'antenne et ça m'a énervé, donc je voulais insister.
C'est ça. Je me disais, mais là, on sent que ça vient de loin.
On peut pas demander quatre attaquants pendant 8 ans et quand il y en a 4, dire au bout d'un match, mais finalement, il y en a une de trop.
Il faut lui laisser sa chance, quoi. Voilà. Ok. Le match, évidemment, qu'on a aussi suivi cette nuit, Argentine-Algérie, 3-0 avec un triplé de Lionel Messi. Il devient co-meilleur buteur de la coupe du Monde, 16 buts, très impressionnant quand même.
Oui, bah il fait du Messi. Hein. Le talent, ça se perd pas. Alors peut-être qu'il aura un peu moins de jambes au fur et à mesure que la compétition va avancer. Mais lui, c'est simple, il joue dans une équipe qui joue pour lui, qui se sacrifie pour lui ou qui va au combat pour lui. On l'a vu, les Argentins qui sont dédiés à Lionel Messi. Et Messi, il a de bons ballons et quand derrière il a pas besoin de trop travailler, qu'il a de bons ballons proches du but, il est redoutable, quoi. Voilà. Alors bon, il a bénéficié peut-être un peu de largesse algérienne sur ce match-là, mais. Et il sera redoutable, bien sûr.
Il sera redoutable. Alors nous, quand on essaie de se projeter, le prochain match des Bleus, c'est l'Irak. Ce sera lundi à 23h. L'Irak qui a perdu cette nuit 4-1 contre la Norvège. Donc ça, c'est plutôt rassurant.
Oui, bon, après, on n'avait pas besoin de ça pour savoir que l'Irak ne serait pas un des grands de cette compétition-là. Mais non, ça montre peut-être que la Norvège va être redoutable aussi, avec notamment Haaland qui lui aussi a marqué 2 buts.
Qu'est-ce qui se passe avec cette Coupe du Monde-là? On a concentré les stars sur 48 heures, là. On a l'entrée de Mbappé, de Messi, d'Haaland, de Ronaldo ce soir, de Kane avec l'Angleterre. Il y a Modric qui joue encore avec la Croatie. Ils sont tous sur 24 heures.
Oui,
spectacle.
Oh, il y en avait aussi en Espagne, il y en avait des pas mal. Bon, Yamal était remplaçant, mais c'est le tirage au sort et puis c'est surtout ça va aller et plus on va voir les grands joueurs s'exprimer et peut-être nous faire des grosses différences et peut-être que c'est ces joueurs-là, comme l'a fait Messi lors de la dernière Coupe du Monde, qu'il faut rebâcher la balance à l'arrivée.
Alors il y a eu cette nuit un match, je crois qu'il est en train de se terminer.
Autriche-Jordanie, il y a 2-1 pour l'instant, c'est la 82e minute. Autriche-Jordanie, c'est le groupe de l'Argentine et de l'Algérie.
Qu'est-ce qu'il va en sortir de celui-là?
De match ou de groupe?
Ouais, de groupe.
Argentine à l'aise.
Bah, l'Argentine, ouais. Déjà, quand tu gagnes le premier match, c'est beaucoup plus facile. On a été déçus par les Algériens parce que c'est quand même une grande nation du foot. Et puis, nous, on les regarde d'un œil particulier. Parce qu'on est proche. On a beaucoup de joueurs qui ont été formés en France. Et moi, j'ai été étonné, de leur prestation contre l'Argentine. Alors, je sais toujours pas si c'est eux qui ont été faibles ou si c'est l'Argentine qui a été très fort. On le verra par la suite.
Le fils Zidane qui est un peu en faiblesse quand même dans les.
Ouais, voilà. Bon, je voulais pas taper sur l'ambulance. Mais ouais, il s'est un peu déchiré sur les deux premiers buts. Ouais.
Donc on verra évidemment pour la suite. Merci à Eric qui sera avec nous évidemment pour vivre cette Coupe du Monde sur RMC, ancien international français et consultant RMC. Je vous rappelle bien sûr qu'RMC est la radio officielle de la Coupe du Monde. À retrouver de 15h à 5h du matin en direct et à tout moment sur la radio digitale et l'application ou le site RMC. Il est 7h49 et c'est l'heure de la voix de droite. La voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
La Corse doit-elle appliquer les mêmes lois que l'ensemble de la République française? Les députés ont commencé à en discuter hier. Vous en pensez quoi, vous?
Je vais peut-être vous surprendre. Moi, je suis plus pour un peu plus d'autonomie pour la Corse. Vive la Corse, vive la Corse libre, d'ailleurs, comme toutes les autres régions de France.
Les données, en fait,
donner un peu plus d'autonomie,
quoi.
C'est pas les détacher de la France.
Vous allez nous le dire dans un instant, Louis Sarkozy. Il est 7h49 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus, Mathieu, avec le film Michael qui bat des records.
Eh oui, Michael, le roi de la pop, continue de régner après 17 ans après sa mort. Le biopic approche du milliard de dollars de recettes dans le monde. Il bat surtout un record. Il dépasse le film Bohemian Rhapsody consacré à Freddie Mercury. C'était en 2018, moins de 10 ans après. C'est Michael qui chippe le trône à Queen, si vous l'avez en France. Aussi, le film bat des records. C'est devenu le biopic le plus vu de l'histoire des salles françaises devant La Môme, Marion Cotillard, son interprétation d'Edith Piaf. Alors Michael, ça reste une version très naïve de la vie de Michael Jackson, parfaitement interprétée par son neveu, c'est lui que vous entendez. La ressemblance, la voix, c'est très réussi, mais ça oublie les zones d'ombre, les affaires. Mais Netflix y revient en ce moment dans une série documentaire sur le procès de 2005 pour agression sexuelle sur mineur. Ça s'appelle Michael Jackson, le verdict.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
droite. Louis Sarkozy, bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Les députés ont commencé hier soir l'examen du projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse. L'objectif, c'est de permettre à l'île d'adopter certaines lois, certains règlements, assez spécificités, comme exact. On dit en Corse. Vous y êtes favorable?
Oui, j'y suis favorable. La Corse a son identité, son histoire, sa culture. Lui rendre un peu plus d'autonomie, ce n'est pas la détacher de la France. C'est au contraire lui permettre d'être française à sa manière. Et c'est la même chose d'ailleurs pour toutes les autres régions de France. Il faut inaugurer l'ère fédérative.
Oui, enfin, ça veut dire quand même que la Corse va pouvoir adapter ses propres lois sur le travail, les écoles, même les impôts.
Bien sûr, dans certains cas. Prenons les exemples qui existent. La Suisse. Chaque canton fixe son propre taux d'impôt sur le revenu. Quel est le résultat? Émulation, responsabilité, transparence. Le citoyen suisse sait exactement où va son argent et il peut comparer canton par canton. Aux États-Unis, l'impôt fédéral est complété par un impôt d'État qui varie du simple au triple. La Floride n'en a aucun. La Californie a un des plus lourds taux du monde libre. L'école aussi, aux États-Unis, chaque État, parfois même chaque district, fixe ses programmes, ses calendriers, ses méthodes. En Suisse, l'instruction publique est aussi entièrement de la compétence cantonale. Le travail, alors là, il faut faire un peu plus attention. On garde un socle national, salaire minimum, droit du licenciement, droits sociaux, mais on peut imaginer des dispositifs d'apprentissage adaptés au tissu économique local. Concrètement, la Corse pourrait moduler ses impôts locaux, adapter ses programmes scolaires aux réalités linguistiques et culturelles de l'île, fixer ses propres règles d'urbanisme, célébrer sa langue, célébrer sa culture. La Corse, comme la Vendée, le Pays Basque, la Normandie, elles sont belles ces régions quand elles sont elles-mêmes.
Marine Le Pen dit que ce texte est, je cite, « dangereux parce qu'il crée une rupture avec la France ». Et vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Caricature. La Suisse et les États-Unis sont deux des plus grands pays du monde, deux démocraties solides, deux puissances fédéralistes. Personne ne les soupçonne d'être sérieusement désunis, en tout cas pas plus que nous. Et c'est là toute l'ironie de notre histoire. Madame Le Pen, la France n'a jamais été aussi centralisée qu'aujourd'hui. Et pourtant, elle n'a jamais été aussi désunie, aussi fragmentée, aussi méfiante d'elle-même. C'est ça qui désunit la France, Madame Le Pen.
Un pays où pour aller en train de Bordeaux à Lyon, on passe par Paris, toujours par Paris, ça c'est pour vous un problème.
Mais c'est un scandale, et c'est vrai d'ailleurs pour les gilets jaunes comme pour les plans ferroviaires, toujours la centralisation. Le principe en vérité est très simple, plus un élu est proche de ses électeurs, plus il doit avoir de pouvoir sur leur vie. Le maire, qu'on croise au marché le samedi, qu'on apostrophe à la sortie de l'école, doit pouvoir décider de beaucoup plus. Le président de région, presque autant. Le ministre à Paris, beaucoup moins, et sur des matières strictement régaliennes. C'est l'inversion de la pyramide. Les élus locaux doivent être des apôtres de la proximité, rendant des comptes en permanence devant les urnes. Pas des bureaucrates déracinés, abrités derrière leurs services et leurs notes, qui n'ont jamais marché dans les rues de ceux qu'ils administrent.
Mais attendez, Louis Sarkozy, la Corse, c'est aussi une histoire violente. 30 ans d'attentats, l'assassinat du préfet Erignac en 98, donner plus de pouvoir aujourd'hui, est-ce que c'est pas prendre un risque ?
Je pense exactement le contraire. C'est précisément parce qu'on a traité les Corses pendant un demi-siècle comme des sujets suspects qu'on a entretenu cette rancœur pendant des décennies. La République leur a envoyé des préfets, des magistrats, des décisions venues d'ailleurs. Elle leur a donné l'autorité, mais presque jamais la confiance. Et la défiance appelle la défiance. Or, regardez les faits aujourd'hui. Aux dernières élections territoriales, les Corses ont massivement voté pour les nationalistes, des élus démocratiques, pacifiques, qui défendent leur identité dans les urnes et plus à la Kalachnikov. Leur réponse a changé. C'est à nous maintenant de changer de la nôtre.
Concrètement, qu'est-ce que vous attendez des députés là sur le projet de loi ?
Déjà, j'aimerais que ce projet passe sans amendement de Pacanti, sans tortillage jacobin, sans réserve préfectorale déguisée. La Corse est un cas pilote. Soit on a le courage de lui confier les clés de sa propre maison, comme on les confie à un adulte, soit on continue à la traiter en mineur depuis Paris et on s'étonnera encore 20 ans que la défiance monte. Proudhon le disait déjà, les Girondins, dans leur fédéralisme, cherchaient à concilier la liberté communale et la liberté nationale. C'est, je cite, « l'éternel problème des gouvernements libres ». À nous, ce siècle-ci, de le résoudre. La France ne sera pas plus forte, parce qu'elle sera plus uniforme. Elle sera plus forte le jour où elle aura enfin cessé de se méfier de ses propres enfants.
Merci Louis Sarkozy, un véritable plaidoyer pour la Corse libre. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot, sur RMC. Il est 7h56, dans un instant, la météo, très forte vague de chaleur qui arrive. Et on y reviendra d'ailleurs aussi dans le journal de 8h. Après le journal, l'économie, c'est avec vous Emmanuel Le Chip. Bonjour,
oui.
Emmanuel.
Bonjour à tous.
La Banque de France revoit à la baisse les prévisions de croissance.
Alors, coup de chaud sur le thermomètre, mais je peux vous dire, coup de froid sur les prévisions de croissance, c'est très rare. Une institution officielle révise autant à la baisse ses perspectives de croissance.
Et vous nous le dites dans un instant, il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h59. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Cette canicule donc qui arrive, vous allez voir que c'est déjà la deuxième de l'année et que déjà il y a des mesures annoncées pour faire face à ces fortes chaleurs. L'image du jour, assurément, ce sera ce soir le dîner Trump-Macron au château de Versailles. Emmanuel Macron, vous allez l'entendre, qui imagine déjà la France en finale de la Coupe du Monde après la victoire des Bleus hier soir 3-1 contre le Sénégal.
Et on va donc avoir des pics à 40 degrés en fin de semaine.
Oui, ça recommence. Hein. Trois semaines après la première canicule, on se dirige tout droit donc vers une deuxième canicule, avant même le début de l'été, ce qui est complètement inédit. Ce matin, vous l'avez entendu, hein, il y a déjà la moitié de la France qui est en vigilance jaune. Et c'est que le début, puisqu'on va avoir au moins 5 nuits étouffantes, on vient de le dire, 5 nuits d'affilée, sans redescendre sous les 20 degrés. L'enfer, tout simplement, dans les villes comme ici à Paris. Écoutez avec Amine Lafchin.
Jeudi 34 degrés.
Les prévisions météo sur son téléphone.
Samedi 32 degrés.
Zoé fait grise mine.
Ça veut dire très peu de sommeil en perspective, disons. Moi, je vis sous une mezzanine, donc c'est assez compliqué. On se réveille la nuit, on a du mal à s'endormir.
Dès ce soir, dans de nombreux départements, les températures la nuit ne descendront pas en dessous des 20 degrés. De quoi angoisser Claire, qui craint de voir son appartement chauffer encore plus que lors de la dernière vague de chaleur fin mai.
La dernière canicule s'est montée à 29.
Alors, pour se rafraîchir la nuit, la retraitée a une astuce.
Je prends des pains de glace, vous savez, pour les glacières. Je les mets dans des gants de toilette. Et je les garde à côté de moi.
Des petites combines que Myriam connaît bien, elle qui vit dans un appartement qu'elle compare à un four.
On est en plein centre de Paris, donc il fait très chaud. Plus la chaleur des voitures qui passent sur les quais continuellement, c'est insupportable.
Heureusement pour elle, son mari lui a fait la surprise il y a 2 jours d'acheter une clim portative.
J'espère qu'on va passer une meilleure nuit dans les jours à venir.
Tout est déjà installé et Myriam l'assure, à la première goutte de sueur, elle n'hésitera pas à l'activer.
Alors il y a déjà tout un tas de conséquences. La SNCF par exemple supprime une vingtaine de trains. Les corails les plus anciens demain et vendredi sur ces lignes Paris-Clermont, Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille aussi pour éviter des pannes. La ville de Paris autorise dès aujourd'hui la baignade dans le canal Saint-Martin. C'était prévu en juillet, c'est avancé donc à cet après-midi dans une zone qui sera délimitée et surveillée. Et les oraux du bac qui commencent lundi prochain pourront être reportés en cas de forte chaleur. C'est ce que dit déjà le ministre de l'Éducation. À propos des écoles, tiens ce matin, la situation se tend de plus en plus. On en a la preuve avec les parents d'élèves. Il y a 8 directeurs d'école sur 10 qui disent avoir eu à gérer un différend avec des familles durant l'année là, qui vient de s'écouler. C'est 2 fois plus qu'en 2013. Date de la dernière enquête sur le sujet, nous explique Bérangère Bouquillon. Écoutez la chef du service société RMC.
Contestation de punition, de notes. Pierre est directeur d'une école primaire de 400 élèves dans le sud de la France. Et s'il rappelle que seule une minorité de parents pose problème, il avoue que chaque semaine, il se retrouve face à des parents virulents.
Mon enfant n'a rien fait, il m'a raconté 7 versions et il cite des textes de loi incriminants. Vous n'avez pas le droit d'écrire ça, vous n'avez pas le droit de faire une sanction. Le ton peut monter très très vite. Il nous est arrivé de devoir appeler la police le matin dès 8h30 devant le portail.
Appeler la police, c'est aussi ce qu'a dû faire Marie, directrice en Île-de-France, lors d'un rendez-vous qu'elle avait demandé aux parents d'un élève.
La mère est arrivée dans mon bureau, hors d'elle. Moi, je voulais une coopération et elle me menaçait de porter plainte.
Et de plus en plus de parents menacent de partir dans le privé, comme l'a vécu Stéphanie, directrice, à cause d'un élève au comportement violent pour lequel elle n'a trouvé aucune solution adaptée.
On est seul, on n'a pas tellement de volant d'action. Les parents l'ont compris et du coup, c'est une vraie faille pour nous. Directeur.
L'étude révèle également que les enseignantes sont moins respectées par les parents que leurs collègues masculins.
C'est aujourd'hui que s'achève le sommet du G7 à Évian. Il sera question de l'intelligence artificielle pour cette dernière journée, avant le rendez-vous très attendu ce soir. Thomas Becker, du service politique à RMC, Emmanuel Macron et Donald Trump donc vont dîner ensemble au château de Versailles. Ce sera l'occasion pour eux deux de célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine à laquelle la France a participé, mais même si l'idée n'est pas d'en faire un dîner de gala.
Oui, ce soir, il y aura quand même le tapis rouge, les dorures et le faste de la Galerie des Glaces, mais c'est un dîner de travail, explique sobrement l'Élysée. Emmanuel Macron a surtout utilisé Versailles comme un appât pour faire rester Donald Trump en France jusqu'à la fin du G7, stratégie payante auprès d'un président américain amateur de dorures.
Versailles, ce n'est pas du plaqué or, c'est du lourd. Alors oui, j'ai dit que j'y participerais.
Un dîner qui intervient après un G7 tendu par moments entre Emmanuel Macron et Donald Trump, pas encore arrivé sur le sol français. Le président américain menaçait la France de taxes sur les vins. Ensuite, le président français n'a pas accueilli son homologue sur le tapis rouge, comme le prévoyait pourtant le protocole. Ce soir, Donald Trump repartira directement après le dîner. Il ne dormira pas en France. Je serai vite rentré à la Maison Blanche, a-t-il promis aux Américains.
Et puis notez que mon invité à 8h30, ce sera la présidente de l'Assemblée nationale, troisième personnage de l'État, Yaël Braun-Pivet. Rendez-vous à 8h30 sur RMC et BFM TV.
On parlait d'Emmanuel Macron, il imagine déjà les Bleus en finale de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors les Bleus, là au moment où on se parle, sont de retour à leur QG de Boston ce matin où un match amical contre une équipe locale est prévu aujourd'hui pour les remplaçants qui ne jouaient pas hier soir à New York lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal. Avec les félicitations donc d'Emmanuel Macron, écoutez le message qu'il a publié dans la nuit.
C'est un bon début de Coupe du Monde et j'espère être là, je sais que je serai là, le 19 juillet prochain pour la finale.
Voilà, il imagine déjà la France en finale de la Coupe du Monde, Emmanuel Macron. Bon, peut-être qu'il s'emporte un petit peu, peut-être qu'il a vu lui aussi le doublé hein, hier soir de Kylian Mbappé qui a détrôné Olivier Giroud pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec désormais 58 buts au compteur.
Je suis très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. J'ai toujours placé ça au-dessus de tout. Maintenant, on sait pourquoi on est là. Je pense que j'aurai le temps de penser à ce genre de choses plus tard quand j'arrêterai de jouer. Là, je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour aider l'équipe, pour continuer avec mes coéquipiers. On va continuer à essayer d'écrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France. Et on sait que le chemin, il sera très long, mais comme j'ai dit, on est prêt.
Alors le prochain match pour Kylian Mbappé et l'équipe de France, ce sera lundi prochain contre l'Irak qui a été lourdement battu 4-1 cette nuit par la Norvège avec un doublé de Erling Haaland. Les stars répondent présents pour l'instant. Lionel Messi lui a inscrit un triplé cette nuit lors de la victoire 3-0 de l'Argentine contre l'Algérie. Jérôme Sillon, c'est vous qui avez commenté ce match pour RMC cette nuit donc à Kansas City. Vous êtes en direct avec nous ce matin. Lionel Messi est encore un petit peu plus entré dans l'histoire.
Ouais, la planète foot avait les yeux rivés sur Kansas City pour découvrir le dernier tango de l'octuple ballon d'or. Dans le stade, une clameur folle est montée des 70 000 supporters, presque tous aux couleurs de l'Argentine, à l'annonce du nom de Léo Messi. À bientôt 39 ans, Messi a dansé avec les défenseurs de l'équipe d'Algérie. 3 buts, dont 2 d'anthologie. Un récital émouvant aux yeux de Juan Pablo Sorin, l'ancien défenseur argentin du PSG.
Quand les personnes m'ont parlé que Léo est fini, Léo continue à briller, à illuminer.
Voilà Messi à 16 buts en Coupe du Monde, record de l'Allemand Miroslav Klose égalé, mais l'humilité de la Pulga l'invite à relativiser.
C'est un honneur de me retrouver aux côtés de Klose et d'autres grands, Ronaldo, Kylian Mbappé qui en a marqué 2 aujourd'hui. Mais je pense que cela ne signifie rien au final. Ce n'est qu'une statistique et rien de plus.
Et si le record de but tombait dès le prochain match contre l'Autriche, le record de la 6e Coupe du Monde s'est déjà fait. Le dernier tango de Messi pourrait bien finir en conte de fées.
On l'espère, on suivra ça en tout cas. Jérôme Sillon en direct donc depuis les États-Unis pour RMC. C'était sous les yeux de Zinedine Zidane. Tiens, cette nuit il était à Kansas City pour assister à la défaite de son fils Lucas, gardien de but pour l'Algérie. Alors dans ce même groupe, il y a l'Autriche et la Jordanie qui sont en train de jouer, c'est en train de se terminer en ce moment. C'est l'Autriche qui mène 3-1. On est au bout du temps réglementaire et l'Autriche vient à l'instant de mettre un penalty. Le programme du jour, je vous le donne parce qu'il est très sympa et on verra ça évidemment sur RMC Radio officielle. On verra Cristiano Ronaldo avec le Portugal, 19h, ça va jouer à Houston contre la République démocratique du Congo. Puis à 22h, un petit peu plus tard, donc à Dallas, il y aura l'Angleterre, Harry Kane contre la Croatie de Luka Modric. 40 ans, il dispute la Coupe du Monde.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec vous Emmanuel, le chiffre Emmanuel, la croissance pourrait être 2 fois plus faible que ne l'espérait le gouvernement cette année.
Oui, c'est un véritable séisme que ces nouvelles prévisions de la Banque de France, parce qu'il est rarissime qu'une grande institution révise avec autant d'ampleur ses perspectives. Elle s'attend dorénavant à une croissance de 0,5% pour le PIB en 2026. C'est quasiment donc 2 fois moins que les 0,9% qu'elle prévoyait
oui,
en mars.
Qui était déjà pas flambant. Hein.
Non, et qui reste pour l'instant la prévision officielle sur laquelle repose le budget 2026. Après une baisse de l'activité au premier trimestre, le deuxième s'annonce aussi très faible, nous dit la Banque de France, tant sur le plan de la consommation consommation que de l'investissement des entreprises. Il n'est donc pas exclu que la France enregistre un recul du PIB au printemps. Et vous savez ce que ça veut dire, le recul du PIB deux trimestres de suite? Eh bien, c'est ce mot qui fait toujours peur. C'est
la récession.
Exactement. C'est ce qui risque de se passer. Alors, autre mauvaise nouvelle en plus, l'inflation qui, elle, est de son côté revue à la hausse, puisqu'elle n'atteindrait plus 1,7% comme prévu en mars, mais 2,5%.
Alors, on peut espérer que la deuxième partie de l'année soit meilleure avec la baisse du pétrole ou pas?
Alors, j'aimerais, Apolline, sauf que dans la prévision de la Banque de France, le scénario qui est retenu, c'est précisément un scénario qui repose sur un accord de paix rapide et sur un recul aussi rapide des prix du pétrole. La réalité, malheureusement, c'est que la France profitera moins de la réouverture du détroit d'Ormuz parce qu'elle a une moindre exposition au commerce mondial que les pays très exportateurs comme l'Allemagne. Que la France, vous savez, c'est ce qu'on appelle le pays édredon. Hein, c'est le pays qui connaît des chocs moins forts et des reprises moins fortes à cause de tous les dispositifs sociaux que nous connaissions.
Quand on chute, on se fait moins mal.
Voilà.
Mais attention, on a plus de mal aussi à remonter.
Exactement.
Si mes vieux cours d'économie sont encore prêts.
Ils sont toujours à jour. Il faut dire, ils datent d'il y a pas longtemps, Apolline.
Oh,
c'est très récent.
C'est flatteur.
Voilà. Et puis il y a l'attentisme de la présidentielle qui est un véritable poison. Les perspectives des patrons de PME sont au plus bas depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est vous dire. Résultat, un chômage en hausse et des déficits publics qui ne vont quasiment pas diminuer cette année.
Tout ça, c'est franchement pas des bonnes nouvelles. Alors regardons quand même du côté des chiffres, les chiffres du jour comme chaque jour.
Mais là, les nouvelles sont meilleures.
Bon.
Le gazole, 1,97€ le litre. On était à 2,02€ à la veille du week-end, donc ça baisse bien. Le samplon 95, on est sur un seuil de résistance. Hein. 1,94€, c'est quasiment stable depuis quelques jours. Le pétrole, 77,2$. Le baril, on était à 90 en fin de semaine dernière, ça baisse bien. Et le gaz, moins 20% en une semaine. Hein, on est passé de 50 à 40€ le mégawatt-heure. Donc plutôt des bonnes nouvelles.
Merci Emmanuel, 8h11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous sur RMC, il est 8h11. Dans un instant, c'est Arnaud Demange qui revient pour nous faire rire. À 8h30, ce sera le face-à-face. Mon invité, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Comment réussir à sortir du fiasco après l'affaire Liana? Et je vous le révélerai dans un instant, il y a eu encore des désastres, des choses absolument incompréhensibles dans des signalements qui ne sont jamais parvenus dans cette affaire Liana et d'autres enfants qui ont parlé sans que ça n'ait la moindre conséquence. Je poserai évidemment la question à Yaël Braun-Pivet. Pour elle, c'est une question de moyens de la justice, la présidente de l'Assemblée nationale qui est donc mon invitée à 8h30. Juste après, il y aura le choix de la rédaction. Augmenter le prix de l'eau pendant l'été, c'est la stratégie de certaines communes face aux sécheresses. Et puis, on a un petit résultat là du foot à vous donner.
San Francisco, c'est terminé. L'Autriche a battu la Jordanie 3-1 dans le groupe J, le groupe de l'Argentine qui a battu l'Algérie cette nuit.
On vous informe en temps réel, évidemment, sur RMC. 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et c'est tous les jours qu'il est avec nous. Arnaud Demange, bonjour Arnaud.
Bonjour Apolline.
Bonjour Mathieu,
bonjour
Élise. Et bonjour à Lou, notre stagiaire de seconde. T'es contente d'être là?
Parce que je lui ai dit que j'avais moins de 25 ans.
Bah oui, ça m'a traumatisé. Alors
il
t'aimes bien la radio?
Parce que c'est un boomer.
Tu veux en faire ton métier plus tard?
J'adore.
Alors très heureux tous de vous retrouver au petit matin, au réveil. Ah, à peau. Votre coq est réveillé.
Oui.
Je rappelle que pour encourager les Bleus, Apolline a adopté un coq. Il gueule fort et il parade. Du coup, elle l'a appelé Jean-Jacques. Et Apo était devant sa télé hier soir. Allez, Kylian! Oh là là, pourquoi il est sur le banc, Lucas Hernandez? Il a morflé en plus, alors que c'était Didier Deschamps.
Non.
Et au final... Et au final, les Bleus ont battu les Lions de la Teranga. C'est le surnom des Sénégalais. Enfin, c'est le surnom des Sénégalais au Sénégal, oui. Parce qu'en France, on les appelle les joueurs de Ligue 2. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Teranga?
Oui, c'est l'accueil.
Oui, c'est l'hospitalité,
oh là
exactement.
Là, wow.
C'est
donc, magnifique.
C'est les lions de l'hospitalité. C'est
d'accord,
chouette. Hein.
D'accord.
C'est chouette, mais ça casse un peu le message du lion, en fait,
oui.
Je trouve. Ça, c'est un peu les tyrannosaures accueillants, les requins serviables. C'est dommage. Alors, on a regardé le match avec tout RMC. Mauvaise première mi-temps, le Sénégal nous a posé des problèmes. Du coup, Estelle Denis, elle était stressée. Elle a mis son téléphone en mode avion, des fois que Didier Deschamps veuille la demander en mariage. Et finalement, 3-1, Cocorico. Ah, merci Jean-Jacques.
Merci Jean-Jacques.
Merci Jean-Jacques.
En ce moment, c'est le G7.
Oui, alors là, on risque pas d'avoir le Sénégal qui nous met des bâtons dans les roues. C'est le G7 d'Évian. Pardon, c'est le G7 à Évian. Oui. Parce que le G7 d'Évian, ça sonne bizarre.
Ça va pas.
Ce serait un G7 sur toutes les déviances des chefs d'État. Il y aurait Trump en slip en latex, avec des pinces croco sur les tétons et une cagoule en cuir.
Mais je crois que c'est
face au Premier ministre allemand.
On ne sait pas, c'est à huis clos.
On ne sait pas, hein. Mais il serait face au Premier ministre allemand en train de dire « Oh yeah, insulte-moi en allemand. Ja, ich werde dich der Arsche ficken. » J'espère qu'il n'y a pas d'enfants allemands qui nous écoutent.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, je préfère pas savoir.
Moi, je sais ce que ça veut dire. Et ensuite, il y aurait le couple Macron en pleine activité BDSM. Encore! Et après, ils ont forcé Mélanie à manger une pizza à l'ananas.
Bon, oh
enfin, bon bref, le G7 déviant, c'est pas ça, c'est juste qu'il est à Évian.
Voilà.
On a parlé évidemment de la paix en Iran. Mmh. A priori, c'est signé vendredi. Emmanuel Macron a dit qu'il était même prêt à lever les sanctions françaises contre l'Iran. Ce à quoi l'Iran a répondu, ah bon? Il y avait des sanctions françaises contre nous. On n'a rien remarqué. Et après, le président a aussi expliqué que le porte-avions Charles de Gaulle pourrait être déployé dans les 2-3 jours, donc après l'accord de paix. Hein, voilà. La guerre est finie. Bon, alors cette fois, on veut bien vous envoyer notre porte-avions. Là, au moins, c'est pas dangereux. Faites-y gaffe quand même. On n'a pas fini de le payer. On n'en a qu'un. Et il prend l'eau.
Éric Ciotti est furieux contre le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui l'aurait traité de nabo. Et il aurait même déclaré, je cite, « Je vais te faire disparaître en t'envoyant des Géorgiens ».
Voilà, beaucoup d'informations dans le même lancement, Apolline. Je vous propose qu'on fasse le tri, hein, qu'on fasse un peu le unboxing de tout ça.
Les unes après les autres.
Premier point. Le ministre des Transports s'appelle Philippe Tabarot.
Oui, c'est vrai, voilà, c'est une information.
Bon, admettons. Deuxième point, Philippe Tabarot n'aime pas Éric Ciotti, donc il l'aurait traité de nabo publiquement, ce qui n'est pas gentil. Hein. C'est pas faux, mais c'est pas gentil. Et apparemment, alors je me suis renseigné, la brouille entre les deux hommes a démarré au sujet des transports de supporters de l'OGC Nice. Oui. Et c'est vrai que c'était pas cool de transporter de malheureux niçois innocents pour voir un match de cette équipe de daube. Alors ça a dégénéré lors d'une visite d'Emmanuel Macron à Nice en plus, qui a dû engueuler son ministre en lui disant « Mais pourquoi tu t'en prends à ce pauvre enfant qui a une chimio en plus ? Mais je ne suis pas un enfant ! Je suis le maire de Nice. Et maintenant on en est à « Je vais t'envoyer des Géorgiens pour te faire disparaître. » Et alors, pourquoi des Géorgiens ?
Ben oui, excellente question ça, Arnaud.
Pour faire disparaître Éric Ciotti, il y a quand même plus simple. Un grand chapeau, par exemple.
Oui.
Une pelouse mal entretenue. Même Éric Antoine, il te fait disparaître Éric Ciotti très facilement pendant son spectacle. Et ça fait même pas partie du show. Il a juste à l'installer dans le public et hop, on le voit plus. En tout cas, on se demandait comment amadouer Trump ce soir au château de Versailles. Ben voilà. Est-ce qu'on n'organiserait pas un combat de MMA entre Éric Ciotti et Philippe Tabarot en slip brillant là, avec des masques de lutteurs mexicains
et des
Géorgiens dans une cage, et après on leur fait faire du rodéo sur un taureau en plastique qui tourne là. Trump il va adorer. Pendant ce temps-là, t'as Agnès Pannier-Runacher en mini-short qui amène de la bière et des nachos, Sébastien Lecornu qui tire avec J.D. Vance au 357 Magnum dans des boîtes de conserve, très trumpiste. Et on finit la fête avec un blind test franchouillard et festif animé par Emmanuel Macron. Je le proposais hier, ça, ce serait super de faire. Il faut le faire.
Oui.
Allez, premier extrait. Qui a chanté ça, Donald ?
Licence 4.
Bravo, c'est pas si facile que ça. Deuxième extrait. C'est pas simple, hein.
La bande
à Basile, voilà. Bravo, ah, oui. Apolline. Allez, next one. Patrick Sébastien, voilà, qui voulait se présenter en 2027. Et ben, je pense qu'on n'aura pas mieux pour plaire à Trump. Il faut faire ça.
Ça va être
et
une bien belle soirée.
Très belle soirée à Versailles.
À Versailles.
Gros bisous.
À Versailles ce soir. C'était donc Arnaud Demanche en direct avec nous, évidemment.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h21. Dans un instant, mon invité, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
La moitié de la France en vigilance jaune pour la chaleur ce matin. Et ça ne fait que commencer puisqu'on se dirige vers le deuxième épisode de canicule de l'année. 3 semaines après le premier et avant même le début de l'été, un dimanche, jour de la fête de la musique avec des pics à 40 degrés attendus. On n'en est pas encore là, mais les températures pour cet après-midi, jusqu'à 36 quand même dans le sud-est. Il fera 34 à Toulouse et Lyon, 33 à Bordeaux, 31 à Paris, 26 à Nice, 25 à Marseille. Et on est sur le point d'entamer une série de nuits sans redescendre sous la barre des 20 degrés. Il y a déjà tout un tas de conséquences. La SNCF, par exemple, supprime une vingtaine de trains demain et vendredi sur ces lignes Paris-Clermont, Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille pour éviter les pannes. Et la ville de Paris autorise dès aujourd'hui la baignade dans le canal Saint-Martin, prévue en juillet. Cette avancée donc dans une zone délimitée et surveillée. La troisième et dernière journée du G7, c'est aujourd'hui à Évian. Il sera question de l'intelligence artificielle avant un dîner entre Emmanuel Macron et Donald Trump ce soir au château de Versailles. Le président américain repartira aux États-Unis dans la foulée. Dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient et des prévisions de croissance abaissées de moitié par la Banque de France pour 2026, et l'info de la nuit, c'est que des pétroliers iraniens ont franchi dans la nuit la zone du blocus américain, si on en croit un site de cartes maritimes. Je vous donne le tout dernier résultat à la Coupe du Monde de football. On vit ça sur RMC, la victoire de l'Autriche 3-1 contre la Jordanie. C'est le groupe de l'Argentine qui a battu l'Algérie 3-0 avec un triplé de Lionel Messi cette nuit. L'Argentin qui est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Des records sont tombés depuis hier soir puisque vous savez que Kylian Mbappé lui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, détrônant Olivier Giroud avec 58 buts, doublé hier soir pour la France 3-1 lors de la victoire contre le Sénégal. Le milieu Adrien Rabiot s'est plaint de l'état de la pelouse hier au stade à New York. Ce matin, les Bleus sont de retour à leur QG de Boston où les remplaçants d'hier soir vont jouer aujourd'hui un match amical contre une équipe locale sans enjeu donc, mais c'est pour préparer le prochain match lundi prochain contre l'Irak qui de son côté a été battu 4-1 un petit peu plus tôt dans la nuit face à la Norvège.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, troisième personnage de l'État. Elle répondra notamment à cette crise de confiance qui s'installe de plus en plus dans le pays. Deux semaines après avoir retrouvé le corps de Liana. Yaël Braun-Pivet, mon invité sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Yaël Braun-Pivet.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale, troisième personnage de l'État, d'un État qui, beaucoup de questions ce matin, suscite parfois une forme de défiance, d'inquiétude après notamment la mort de Liana. Lundi soir, encore des rassemblements devant les palais de justice. Et chaque jour, presque, on a de nouvelles plaintes, on a de nouvelles procédures qui n'ont pas forcément abouti. La dernière, et je voudrais vous faire réagir, c'est ce signalement qui avait été adressé par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, à la justice en mars dernier. C'est cette petite fille, déjà placée pour être protégée, mais qui s'est retrouvée face à Jérôme Barella, le père d'une de ses amies. Elle a signalé des gestes au minimum déplacés de Jérôme Barella. Elle s'en est plaint à l'une des animatrices de l'ASE qui a pris son témoignage au sérieux et qui a décidé d'alerter. Mais voilà, cette alerte n'est jamais arrivée. La procureure d'Auch indique, je cite, qu'elle n'a eu aucune trace de réception et d'enregistrement de ce signalement en mars dernier donc. Je l'ai appris dans la presse. Voilà ce qu'elle dit à BFM TV. Elle invoque un problème de boîte de réception. Un problème de boîte de réception. Elle a donc finalement fait des recherches dans ses mails, semble-t-il, et elle a fini par récupérer ce signalement début juin, qui était, semble-t-il, je sais pas, dans les messages sur le côté ou sur une mauvaise boîte. Mais comment c'est possible, un problème de signalement? Je sais plus quoi dire, en fait.
Moi non plus. Moi non plus, parce que on sait à quel point déjà il est difficile pour les enfants de parler parfois, de révéler des faits qui leur sont arrivés. Et donc, lorsque La parole de l'enfant est là, il faut absolument, impérativement s'en saisir, il ne faut rien laisser de côté. Et malheureusement, cette affaire illustre les manquements, les carences parfois dans le processus de plainte, de dénonciation, d'instruction de ces faits. Et donc, on voit bien que parfois, il y a des manquements au niveau de l'aide sociale à l'enfance, parfois il y a des manquements au niveau de l'école, parfois ce sont des manquements au niveau de nos forces de l'ordre. Parfois, ce sont des manquements au niveau de notre justice. Mais on voit bien que cette chaîne, elle ne marche pas bien aujourd'hui. C'est ce que ces affaires illustrent. On verra ce que dira l'enquête précise dans l'affaire Liana.
Lundi.
Mais en tout cas, on voit bien que ces défaillances, elles sont un petit peu systémiques. Et c'est ça qui nous révulse tous, quelle que soit la fonction, quelle que soit notre place dans la société.
Ce qui est navrant, et le mot est faible, désespérant, qui donne le vertige, c'est que j'ai l'impression que depuis deux semaines, à vous tous que j'ai face à moi, il y a ces plaintes qui n'ont pas été suivies de fait. Il y a cette mère de Rosa qui a appelé régulièrement sans obtenir de réponse. Il y a les preuves que les récits de Rosa avaient bien été corroborés par des médecins, des lésions sur son corps. Tout cela n'a donné aucune conséquence. Et puis, pardon, mais le côté dérisoire de mail, c'est-à-dire d'enfants qui parlent, de signalements qui sont faits, et on nous dit, c'est tombé dans mes spams. Enfin, on en est quasiment là.
Ouais, mais justement, je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, comme hier, parce que c'est pas une loi de circonstance, on plaide pour cette fameuse loi intégrale. Ça n'est pas pour rien que les associations se sont mobilisées depuis des années pour cette loi. Cette loi, elle a été déposée par Céline Thiébaud-Martinez et plus d'une centaine de parlementaires en décembre 2025. Moi, j'ai rencontré les collectifs d'associations il y a un an, en mai 2025. Donc, ça fait des mois, des années que l'on est beaucoup à dire, il faut prendre le problème dans son entièreté parce qu'il y a des difficultés à chaque bout de la chaîne.
Et donc on a fait beaucoup de choses. Pourquoi cette loi elle est restée dans le tiroir ?
Alors elle est restée dans le tiroir parce que elle est un petit peu sortie du tiroir parce que avec le Premier ministre, chacun de notre côté, on a saisi le Conseil d'État qui est en ce moment en train de regarder son côté juridique pour s'assurer que les dispositions volent bien, comme on peut dire dans notre jargon. Donc elle est sortie du tiroir. Il y a plus de 150 parlementaires qui l'ont signé à ce jour, c'est un quart de l'Assemblée nationale. Ça n'est pas rien. Mais on a en fait eu depuis des années une approche en fait en silo et par petits bouts. Donc on a fait plein de choses. Il faut pas dire qu'on a rien fait. Il y a eu le Grenelle des violences conjugales. On a formé près de 200 000 forces de l'ordre à la réception de la parole. Il y a des maisons des familles dans tous les départements de France de protection des familles pour recueillir correctement la preuve avec des protocoles adapté qu'on appelle le protocole Mélanie. J'en ai inauguré une encore récemment dans mon département. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Mais ce que l'on voit, c'est quoi ? C'est que, justement, ça n'est pas systématisé. Donc, il y a encore des trous. Et il y a des problèmes de passage de chaîne. Et c'est exactement ce que vous décrivez. Donc, on regardera ce que l'enquête dira. Mais on voit bien que parfois, l'information ne circule pas. Que parfois, la personne qui réceptionne la plainte a la bonne attitude, parfois ne l'a pas. Et donc, il faut absolument faire en sorte que chaque victime, que chaque parole soit entendue, justement, et que la bonne procédure soit faite. Et c'est pour ça, ça aussi, c'est prévu dans la loi intégrale. Il y a un article qui dit, quand vous recevez une plainte d'un enfant ou d'une femme, voilà les actes d'enquête que vous devez faire. Impérativement. C'est ce qu'on voudrait avoir pour justement avoir un traitement égal sur tout le territoire et ne plus rien laisser passer.
Encore faut-il que la plainte n'arrive pas dans les spams. Mais ça me paraît tellement...
Mais c'est pour ça qu'il faut prévoir un chemin après entre de transmission correcte, entre les forces de l'ordre, le procureur, qu'il y ait une enquête et que tout cela, c'est l'objectif en fait. Toujours dans la loi intégrale, nous prévoyons des pôles spécialisés. Aujourd'hui, ils existent, mais ils ne sont pas suffisamment renforcés, donc il faut vraiment qu'on ait partout sur le territoire national, dans chaque département, des pôles judiciaires spécialisés, des enquêteurs spécialisés et qu'à chaque fois, chaque victime soit immédiatement orientée vers ces pôles spécialisés. C'est indispensable pour ne plus avoir ce type de faits qui sont gravissimes parce qu'ils peuvent avoir des conséquences absolument abominable.
Abominable et dramatique, cette fameuse loi intégrale, si désormais elle suit en effet le processus, si elle est validée par le Conseil d'État, est-ce qu'elle pourrait être votée avant la fin du quinquennat ?
C'est l'agenda qu'on pourrait avoir. Moi, j'ai échangé encore hier après-midi avec le Premier ministre et avec Céline Thiébaud-Martinez, la première auteure de cette loi. L'objectif, c'est effectivement d'avancer rapidement. Et donc, c'est pour ça que nous demandons l'inscription de cette loi en septembre à l'agenda de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre nous parle de l'automne. Moi, l'important, c'est qu'effectivement, à la fin du quinquennat, nous ayons pu avancer résolument sur cette situation, parce que c'est 160 000 enfants par an, et c'est des femmes qui, tous les jours, subissent les coups de leur mari, et qui dont la parole n'est pas suffisamment prise en compte.
Comment vous vivez, vous, cette période ? Vous avez entendu sans doute l'une des députées qui disait qu'elle avait honte aujourd'hui. Laure Miller, elle dit « j'ai honte d'être députée français ». Comment vous entendez ça, vous ?
Alors, moi, je pense que le Parlement a joué son rôle. Et donc, il ne faut pas avoir honte. Au contraire, il faut être fier de ce que l'on a fait. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on a eu une commission d'enquête sur l'ASE d'Isabelle Santiago. Nous avons eu des commissions d'enquête sur les violences sexuelles dans le sport, dans le milieu du cinéma. Nous avons actuellement une commission d'enquête sur l'inceste, qui rendra ses conclusions le 7 juillet. Nous avons été à l'initiative de plusieurs lois importantes, transpartisanes, l'aide d'urgence pour permettre aux femmes de quitter leur domicile, l'ordonnance de protection. Ce sont des initiatives parlementaires qui à chaque fois ont été votées à l'unanimité de notre hémicycle. Donc moi, je suis plutôt fière de cette Assemblée nationale qui s'est saisie justement des sujets. Nous avons créé, sur ma proposition, en septembre 2022, une délégation aux droits des enfants présidée par Perrine Goulet, qui justement était chargée et est chargée de mettre en lumière la parole des enfants à l'Assemblée nationale. Donc moi, je crois que l'Assemblée nationale a été à la hauteur. Mais effectivement, il faut aller beaucoup plus loin.
Quand on parle de loi intégrale,
c'est une proposition de loi. Nous ne parlons pas d'un projet de loi.
J'ai l'impression parfois que tout ça est assez théorique, c'est-à-dire, je comprends bien. Vous avez de votre côté initié un certain nombre de choses, et quand j'écoute chacun, il a le sentiment quand même d'avoir fait le plus possible. Et puis ensuite, il y a des histoires de signalement qui n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression, d'un décalage entre un certain nombre de principes, de décisions, et le mur du réel, quoi, qui n'est pas
franchi. En fait, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Je suis pas en train de vous raconter que tout va bien. Vraiment pas. C'est pas du tout mon intention, parce que je sais que tout ne va pas bien, et je vous l'ai dit en début de cette émission. Mais je voulais vous dire, on a fait beaucoup, mais ça n'est pas suffisant. Clairement, il faut être pragmatique. Il faut regarder la situation telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, ça ne convient pas, ça ne va pas. Et donc, il faut aller plus loin, loi intégrale, davantage de budget, peut-être aussi une prise de conscience de la société tout entière qui n'était pas complètement là. Moi, en 2022, j'appelle à un MeToo de l'enfance, j'appelle à cette prise de conscience de la société. Eh bien, elle est peut-être en train d'arriver aujourd'hui. C'est heureux, il faut se saisir de cet électrochoc national qui nous a tous saisis. Faisons-en quelque chose d'utile, protégeons mieux nos enfants, protégeons mieux les femmes de ce pays.
Faudra-t-il des sanctions ? Gérald Darmanin a écrit aux différents magistrats de France hier. Il dit « lorsque des fautes professionnelles sont établies par les rapports d'inspection ou les enquêtes administratives, personne ne comprendrait qu'elles ne soient pas sanctionnées ».
Mais il a raison, la responsabilité est inhérente avec les régimes disciplinaires.
C'est rarissime qu'il y ait des sanctions contre des magistrats.
Alors, c'est pas très fréquent, vous avez raison. On a réformé le régime. Il y en a quand même un certain nombre. Mais effectivement, quand on est en responsabilité, la responsabilité, ça veut dire effectivement que lorsque l'on commet des fautes, eh bien, elles doivent être regardées et éventuellement sanctionnées. Mais ça sera l'objet du rapport et des suites qu'il y aura éventuellement à ce rapport. Je ne veux pas préjuger. Moi, je n'ai absolument aucune connaissance de l'inspection qui est en cours.
L'enquête et l'inspection administrative dont le compte-rendu devrait avoir lieu lundi. Une loi a été adoptée hier, dite loi philippine. Là aussi, un drame qui avait traversé la société française de cette jeune fille violée, tuée par un homme déjà condamné sous OQTF, mais pour des raisons là encore administratives, de délai, de demandes qui n'avaient pas été faites à temps, bien, il s'était retrouvé en liberté dans la nature. Charles Rodwell a porté cette loi. L'idée, c'est de rallonger la durée de rétention pour les étrangers en situation irrégulière qui auraient été condamnés pour des faits particulièrement dangereux. Est-ce que vous satisfaisez
Je m'en satisfais, bien sûr. C'est important qu'effectivement on ait pu rallonger les délais et permettre de retenir effectivement ces personnes. Et vous voyez, là aussi, initiative parlementaire, un député qui s'est saisi de cette affaire et qui a été au bout avec l'assentiment évidemment du gouvernement. Mais vous voyez, le Parlement, c'est ça l'intérêt d'avoir un Parlement divers. Ce sont des parlementaires qui sont sur le terrain, qui sont à l'écoute de la société et qui portent des initiatives qui permettent d'avancer. Mais vous voyez que c'est par petites touches et parfois, et on le comprend, ça ne va pas assez vite sur un certain nombre de domaines.
Cette question d'ailleurs, dans le cadre de l'élection qui vient, d'une sorte de centre élargi, puisque vous aimez à dire qu'il faut travailler les uns avec les autres. Vous dites pourtant que vous ne voulez soutenir personne à ce stade. Vous n'avez été ni au meeting de Gabriel Attal, vous n'irez pas non plus à celui d'Édouard Philippe. Pourquoi ? À un moment, il va falloir se lancer, non ?
À un moment, mais ça n'est pas le moment. Aujourd'hui, vous voyez, on a parlé de sujets extrêmement importants. Et moi, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, en tant que députée, mais aussi en tant que maman, je consacre l'intégralité de mon énergie à essayer de résoudre ces questions.
Eux, c'est tout pour ma gueule.
J'ai pas dit ça.
Si j'étais candidate, alors on se dirait que je fais partie de ce club des CTMG. C'est tout pour ma gueule.
Alors moi, je crois pas que j'ai dit ça, mais peu importe en fait. Aujourd'hui, on a des candidats qui déroulent des programmes, chacun est dans sa ligne de nage en fait. Et moi, j'ai le sentiment, en tout cas, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je veux faire, c'est qu'il faut travailler et faire du collectif. À nouveau après, aujourd'hui, on est en juin. Moi, j'ai des dossiers qui sont sur la table de l'Assemblée nationale et j'essaye de les faire avancer au maximum.
Est-ce que ça vous a aussi traversé l'esprit ? Est-ce que vous vous êtes dit, et d'ailleurs vous dites souvent, ça manque de femmes. Est-ce que vous vous êtes dit, j'y vais ?
Mais je me suis pas dit à ce jour, ok, j'y vais. Mais c'est quelque chose que je regarde et évidemment, je n'exclus jamais rien. Mais je n'ai jamais rien exclu dans ma vie, donc je n'ai pas commencé à le faire. Mais je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, ça n'est pas mon sujet parce que j'ai trop à faire à l'Assemblée nationale.
Dimanche, c'est la fête de la musique. Place de la République à Paris, ce sera une fête de la musique, mais LFI, LFI qui organise Place de la Musique, concerts et prises de parole militantes. Est-ce que vous avez vu cette histoire ? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ?
J'ai pas
normal
vu,
et que c'est le
mais
lieu ?
Faut pas politiser la fête de la musique. La fête de la musique, c'est une fête qui appartient à tous les Français. C'est un moment de joie, de fête collective, de partage. Il y aura d'ailleurs une fête de la musique à l'Assemblée nationale aussi. On ouvre notre porte.
Elle sera pas politique. Vous n'alternerez pas concerts et prises de parole militantes.
Alors non, moi je fais pas de prises de parole à l'Assemblée nationale lors de la fête de la musique.
Donc c'est pas le lieu.
C'est pas le lieu, mais c'est pas le jour surtout. Laissons les Français justement se réunir et fêter quelque chose ensemble, quelles que soient les opinions politiques.
Franchement, mettre la politique de côté.
La musique, ça doit nous rassembler et ça doit pas nous segmenter.
Il y a une autre fête, c'est la fête à Versailles ce soir, les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Dîner à Versailles, est-ce que vous y serez d'ailleurs ?
Non, j'y suis pas.
Non.
C'est un dîner, je pense, restreint de travail.
Restreint de travail. Est-ce que c'était le lieu ? Est-ce qu'il fallait dérouler en quelque sorte le tapis rouge à Donald Trump dans le contexte actuel.
C'est le lieu, il faut se parler aujourd'hui. Et Versailles, c'est le symbole de la France, de la grandeur de la France. Ça a été conçu pour ça d'ailleurs quand ça a été construit. Donc moi, je n'y vois aucune difficulté. Et quand on va aux États-Unis, quand moi j'ai visité le Congrès récemment, je me suis entretenue avec Mike Johnson, on voit l'attachement des États-Unis à la France, à Lafayette, etc. Donc il n'y a
aucun président actuel, le lien avec les États-Unis, il doit rester très fort.
Mais évidemment, il est très puissant, il s'est inscrit dans le temps et vous savez, tout cela dépasse l'amitié entre des nations, dépasse largement les dirigeants qui sont aujourd'hui au pouvoir. On le voit avec les États-Unis, on peut le voir avec d'autres exemples.
Est-ce qu'on peut réussir à convaincre les Américains, en ayant présidé le G7 à Évian qui se poursuit encore aujourd'hui, avec ce dîner à Versailles, de ne pas en rajouter quand on voit à nouveau l'idée d'une taxe 100% sur nos vins et spiritueux.
spiritueux. Quand on voit la manière dont il a coupé l'accès aux moteurs de recherche les plus puissants de l'intelligence artificielle, quels sont nos moyens à nous?
Alors, je ne sais pas si on est capable de les convaincre, mais en tout cas, pour convaincre quelqu'un, il faut discuter avec. Donc, si vous ne discutez pas, vous êtes sûr que vous ne le convaincrez jamais. Donc, toujours discuter, toujours échanger, faire valoir nos arguments, agir en européen, pas uniquement en franco-français, c'est important. Donc, moi, je pense que vraiment la clé, c'est l'Europe, parler d'une voix unie face aux États-Unis et faire émerger enfin une vraie puissance européenne qui nous permettrait de desserrer l'étau entre les États-Unis
et
la Chine.
Alors, vous n'avez pas dit, c'est tout pour ma gueule, pardonnez-moi, c'est François Bayrou qui l'a dit. En revanche, il y a des insultes qui ont fusé et qui n'ont pas été niées par celui qui les aurait proférées. Nabo, je vais te faire disparaître en t'envoyant des Géorgiens. C'est Philippe Tabarot, le ministre des Transports, qui, dans le cadre aussi, visiblement, d'une concurrence locale sur fond de sénatorial, aurait envoyé ça au maire de Nice, Éric Ciotti. Vous trouvez que c'est digne d'un ministre, ça?
Écoutez, je pense que Éric Ciotti a porté plainte, je crois, et il s'en est plaint au Premier ministre, donc on va les laisser régler cette affaire. Mais en tout cas, d'une façon générale, on peut pas avoir un débat politique qui se place de cette façon.
C'est pas digne. Merci beaucoup, en tout cas, Yael Brun-Pivet, d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Merci Apolline. La tarification de l'eau en période de sécheresse, c'est à suivre dans le choix de la rédaction. Et puis si je vous dis Mbappé, Messi, Zidane sont dans le même bateau, c'est la chronique de Virginie Fulpin à suivre.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51 sur RMC. Les dernières infos sur la Coupe du Monde, c'est avec vous Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour tout le monde.
C'est dans un instant, premier match des Bleus. Pour l'instant, un match, une victoire. On est content. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous, Anna Jojard. Bonjour Anna.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Correspondante RMC dans le Sud-Est, une vague de chaleur s'installe sur le pays. On en parle depuis ce matin sur RMC. Plus d'une trentaine de départements sont déjà placés en vigilance ou en alerte sécheresse. Et donc, forcément, il faut déjà réfléchir à réduire notre consommation d'eau. Vous vous êtes intéressée, Anna, à ces communes qui font le choix d'augmenter les tarifs de l'eau l'été?
Oui, et une des dernières communes à passer le cap, c'est Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes. Une commune balnéaire très touristique, traversée par un cours d'eau, le Loup. Dans le passé, elle a déjà été concernée par des restrictions d'eau. Cette année, la municipalité veut donc anticiper et réduire déjà les usages excessifs. Depuis le début du mois jusqu'à la fin de l'été, l'eau est plus chère, entre 40 et 63% en fonction de la quantité consommée. Le reste de l'année, le prix baissera de 45%, ce qui permet d'équilibrer la facture à la fin de l'année. Lionel Lucas est le maire de la commune.
Dès le mois de mai jusqu'au mois de septembre, nous doublons, triplons notre population et donc automatiquement notre consommation d'eau. Pendant toute la période hivernale, automnale, voire le printemps, on est à 6000 m3 d'eau par jour de consommation. Et là, actuellement, au moment où je vous passe, on est déjà passé à 10 000 m3. On veut une responsabilisation. Pour nous, il n'y a malheureusement que le prix de l'eau qui fait réfléchir. Sinon, ça n'a pas d'incidence.
Et je le précise, hein, les agriculteurs de Villeneuve-Loubet ne sont pas concernés par cette hausse. Pour eux, le tarif reste fixe.
Alors, du côté des habitants, Anna, on en pense quoi ?
Eh bien, tous ceux que j'ai rencontrés sont évidemment conscients, hein, qu'il faut préserver cette ressource en eau. En revanche, et vous allez l'entendre, le principe de toucher au portefeuille, lui, divise sur son efficacité.
C'est normal, il n'y a plus d'eau. Allez voir le Loup, il n'y a plus rien dedans. Il faut faire des économies.
Si ça oblige les gens à faire attention à leur consommation, c'est pas plus mal.
C'est pas le fait de payer davantage qui me fera changer mes habitudes, parce qu'elles sont déjà bonnes. Si on augmente trop, ça sera punitif, mais ça n'apportera pas grand-chose. Nous, on souhaitait surtout pouvoir améliorer la déperdition de ces eaux qui partent dans les égouts et qui ne sont jamais réutilisées.
Et cette tarification saisonnière, elle est déjà mise en place dans d'autres communes?
Oui, que ce soit des communes bretonnes ou dans le sud-ouest, je pense à Toulouse par exemple, et je suis aussi allée à Grasse, toujours dans les Alpes-Maritimes, où la tarification saisonnière est mise en place depuis 3 ans déjà. J'y ai rencontré Nathalie, une habitante des environs, qui sait que l'une des principales dépenses en eau l'été, eh bien, c'est le jardin, et elle s'est donc adaptée pour avoir des réserves d'eau, même en cas de sécheresse.
L'eau de cuisson, on la garde qu'elle refroidisse pour arroser les plantes, déjà. Après, on a des récupérateurs d'eau de pluie pour le jardin. Et on utilise beaucoup de plantes qui demandent très peu d'eau. On a adapté aussi notre potager. Au départ, ça a été économique peut-être, mais maintenant, je remarque aussi écologique aussi.
Et après 3 étés avec cette tarification saisonnière, le maire de Grasse, Jérôme Viau, dresse un premier bilan.
C'est moins 11% de consommation pendant la période estivale sur les années 2023 et 2024. Et donc, on voudrait réitérer ce processus qui permet de consommer moins dans les périodes les plus complexes, quand la ressource est très sollicitée, quand il y a de moins en moins d'eau.
Et vous l'avez entendu, moins 11% pour les étés 2023 et 2024, un chiffre qu'il faut toutefois nuancer, puisque l'été dernier, où il n'y a pas eu beaucoup de pluie, la commune a constaté une légère reprise dans la consommation d'eau, notamment pour tout ce qui est de l'ordre de l'arrosage.
Merci Anna Jojard, correspondante RMC dans le Sud-Est.
RMC, le mondial de Virginie.
Le jingle du mondial de Virginie, vous l'avez reconnu, c'est le mondial de la gagne. Vous êtes avec nous Virginie. Lionel Messi entre un peu plus dans la légende du football, on commence par lui, et dans la légende de la Coupe du Monde.
C'est un livre des records à lui tout seul. Cette nuit, l'Argentine a battu l'Algérie 3-0. Un triplé de Lionel Messi. Il en est à 16 buts en Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il rejoint l'Allemand Miroslav Klose comme meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Son premier but, c'était au Mondial 2006. Il avait 18 ans. Aujourd'hui, il en a 38. Il est aussi devenu ce matin le premier joueur à disputer 6 Coupes du Monde. Il sera rejoint ce soir par son rival de toujours, Cristiano Ronaldo. Alors, 16 buts en 6 Coupes du Monde, c'est impressionnant. Mais moi, personnellement, je connais quelqu'un qui en est à 14 en 3 Coupes du Monde.
Je crois qu'on parle de Kylian Mbappé.
Oui, le capitaine de l'équipe de France, grand artisan de la victoire des Bleus 3-1 contre le Sénégal hier soir. Auteur d'un doublé en deuxième période, il a forcément dans la tête ce record de 16 buts de Klose et Messi, donc. Mais il a déjà établi un record hier soir en dépassant Olivier Giroud comme meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 58 buts déjà à 27 ans. Je sais pas s'il va célébrer tous ses buts comme le premier hier en jouant de la flûte traversière, enfin de l'air flûte traversière. C'est ce qu'il avait promis à un journaliste d'une chaîne américaine qui lui parlait de son apprentissage de la musique quand il était petit. Il ne faut jamais lancer de défi à Kylian Mbappé parce que même pour ça, il veut gagner.
Mais moi, tant qu'il met des doublés, il célèbre comme il veut. Les Bleus qui sont pleins de la qualité de la pelouse.
Ouais, on a la preuve qu'un jardinier américain, c'est pas exactement un jardinier anglais. Qu'est-ce que c'était que cette pelouse sèche ? Adrien Rabiot a peu goûté la sensation sous les crampons.
Sur cette pelouse, c'est même pas si on peut appeler ça comme ça. Ça ressemble plus à un synthé assez dur, assez rigide.
Alors on verra si l'herbe est plus verte ailleurs. Le deuxième match des Bleus, c'est lundi, c'est à Philadelphie. Je vous dis tout de suite que le lendemain, ce sera pas simple. Le réveil, c'est à 23h, France-Irak.
Alors on sait qu'hier soir, Zinedine Zidane n'a pas vu le match des Bleus.
La famille d'abord. Zinedine Zidane a beaucoup de qualités, mais pas le don d'ubiquité. Être à New York et à Kansas City quasiment en même temps, c'est pas possible. Alors il est allé voir son fils Lucas dans les buts de l'Algérie pour ses grands débuts en Coupe du Monde face à l'Argentine. Il a donc fait connaissance avec Lionel Messi. Mais papa était là pour le réconforter. C'est logique, c'est sûrement mieux même pour Didier Deschamps, hein, très agréable d'avoir son successeur en tribune qui juge un peu tout ce qui se fait.
le Ghanéen Thomas Partey n'a pas le droit d'entrer sur le sol canadien.
Ouais, la justice canadienne ne veut pas le voir là. Thomas Partey est accusé de viol, il sera jugé l'an prochain au Royaume-Uni. 4 femmes ont porté plainte, alors lui conteste les faits. Le gouvernement ghanéen a contesté la décision des autorités canadiennes, mais le refus d'entrer est confirmé. On ne le verra pas sur le terrain demain à Toronto pour le match entre le Ghana et le Panama.
Les supporters anglais sont prêts pour l'entrée de leur équipe dans la compétition.
Ils sont toujours prêts, les supporters anglais.
Les supporters anglais.
Cette nuit, ils étaient réunis dans un pub londonien de Dallas. Et ce soir, pour Angleterre-Croatie, ils seront 15 000 quand même dans le stade à Dallas.
Ils sont toujours prêts, les supporters anglais. On verra ce qu'il y a de l'équipe.
Oui, mais ça, c'est autre chose.
Merci Virginie.
Ça fait depuis 66 qu'ils sont pas prêts.
Belle affiche sur RMC à 22h, Angleterre-Croatie. La suite de la compétition à suivre sur la radio officielle de la Coupe du Monde. Toutes les infos tout au long de la journée et jusqu'à 5h du matin. Enfin, tout le temps, en direct aussi, avec la radio digitale sur l'application RMC. Dans un instant, les GG. Alain Marchal, bonjour. Quel est le programme ?
Et on a toujours un record qui tient, celui du plus grand nombre de buts en Coupe du Monde. C'est toujours Juste Fontaine.
Toujours sur une Coupe du Monde.
C'est depuis 1958, sur une seule Coupe du Monde.
Sur une seule Coupe du Monde.
Il n'est pas prêt de tomber, celui-là, de record, effectivement. Bah, on va quand même se satisfaire de ce que nous ont fait les Bleus. Ça nous fait du bien au moral, finalement. Ça nous met un peu de baume au cœur dans cette actualité qui est tellement lourde. Vous venez de discuter avec nous. On reparlera de la grosse chaleur qui arrive. On a des maires qui commencent à se demander s'ils vont pas annuler la fête de la musique. 40 degrés, les concerts, l'alcool, ça risque de faire beaucoup. On reparlera de Baliba Gayoko, le maire de Saint-Denis, qui estime que on peut siffler la Marseillaise, que c'est même un droit à la réplique populaire. Vous venez discuter de ça avec les GG, avec les grandes gueules. On sera avec la députée LFI Aurélie Trouvé.